On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Bonsoir à toutes et tous, on refait le match, 18h30, 20h, toujours pas de match, mais une actualité XXL dans les coulisses, 1h30 d'échanges, de débats, de discussions pour décortiquer toute l'actualité football de la semaine. Et ça risque d'être chaud ce soir avec, vous le savez, confinement oblige, un seul objectif, vous informer, vous distraire, vous faire participer à l'émission. Le standard 3210 ou le compte Twitter @RTLFoot. Il y a des choses évidemment beaucoup plus importantes que le ballon rond actuellement, mais si nous pouvons nous changer les idées, vous changer les idées, tant mieux, avec toujours des tonnes d'encouragements et de remerciements au personnel soignant, du professeur à l'agent d'entretien de nos hôpitaux, cliniques et EHPAD. À mes côtés, David Aiello, journaliste indépendant, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Stéphane Powels, RTL, TV5 Monde, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir les copains.
Bruno Constant, consultant foot anglais sur l'antenne de RTL et créateur du podcast 100% football anglais, bonsoir.
Bonjour Christian, bonjour à tous.
Éric Silvestro, enfin, service des sports RTL, présentateur d'On fait le sport avec Le Parisien. Chaque dimanche soir, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Il n'y a pas de enfin, il n'y a jamais de fin d'ailleurs. Vos messages sur les réseaux sociaux, émission interactive relayée par Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Et mesdames, messieurs, notre VIP du soir, la voix du foot sur l'antenne de RTL et partout dans le monde. Un tonnerre d'applaudissements évidemment.
Philippe Zanfourche.
Pour nous rejoindre ce soir dans On fait le match, Vicente Lizarazu. Bonsoir Vicente.
Salut Christian, salut Stéphane, David, Bruno,
salut
Eric.
Vicente.
Salut Vicente.
Messieurs. Partout dans le monde quand même pas.
Mais si, mais si. Intergalactique, Vicente Lizarazu.
Même sous l'eau.
Messieurs, le sommaire d'On fait le match, après ceci. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match avec Vicente Lizarazu, Éric Silvestro, Bruno Constant, Stéphane Powels, David Aiello et Baptiste Durieux pour relayer tous vos messages sur le compte @RTL. Foot, bien évidemment. Messieurs, le sommaire, écoutez-moi bien. Soyez attentifs. Jusqu'à 19h, alors que le déconfinement n'est absolument pas à l'ordre du jour, imaginez les footballeurs reprendre bientôt l'entraînement. Est-ce bien sérieux ? Question supplémentaire, les dirigeants envisagent de démarrer la prochaine saison le 23 août avec le 17 juillet pour achever la précédente. Par conséquent, alors les joueurs seront-ils prêts à encaisser le programme? Nous y répondrons jusqu'à 19h. Après 19h, chômage partiel, baisse de salaire, faut-il craindre des cessations de paiement et des dépôts de bilan pour certains clubs? Question supplémentaire, le football français qui se querelle ne risque-t-il pas d'imploser? 19h30, malgré la crise, le prochain mercato s'annonce chaud et chaud, c'est CHAUD SHOW. On en verra peut-être Messi à l'Inter Milan, pourquoi pas. En fin d'émission, Benzema Giroud, pourquoi tant d'aigreur? On fera un peu le replay de la semaine précédente afin de purger le dossier. Et puis un mot quand même en fin d'émission sur le football amateur avec la possible annonce jeudi prochain d'un arrêt définitif de l'actuelle saison. Et cela concerne, vous le savez, messieurs, des milliers et des milliers de footeux, de dirigeants et de supporters. Alors on commence par ce premier débat. Petite musique qu'on entend depuis quelques jours en France qui consisterait à faire reprendre les entraînements du sport professionnel pendant le confinement. Alors d'où l'idée d'accorder des privilèges. Nous avons mis les pieds dans le plat, nous ici RTL. Nous avons proposé le baromètre Odoxa Groupama RTL sur le sujet. Je vous propose quelques éléments d'appréciation et vous pourrez en débattre, messieurs, ensemble. À la question des sportifs, dirigeants de clubs, des instances et acteurs du sport se sont récemment exprimés sur le sujet. Est-ce que vous seriez favorable ou opposé à des entraînements durant le confinement? Donc avant le déconfinement et durant le confinement, pour 63% des Français, c'est non. Et pour 54%, mais ça c'est un peu logique, pour les amateurs de sport, 54%, c'est non également. Donc une majorité. Deuxième question, pour chacune des mesures spécifiques au sport professionnel, dites-nous si vous seriez favorable ou opposé. Donner l'accès d'un stade aux athlètes pour qu'ils puissent s'entraîner. 52% des Français, là pour le coup, sont d'accord. Donc c'est un peu paradoxal.
Oui, c'est bizarre.
Ouais. C'est paradoxal, oui.
Bon, alors on va zapper. Pour chacune des affirmations suivantes à propos des mesures dérogatoires pour le sport pro, dites-nous si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ces mesures constitueraient un privilège plus qu'une dérogation. Oui, répondent les Français à 70%.
Alors,
d'accord. Et puis alors, moi, la question qui m'intéresse. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé l'interdiction de la pratique du jogging entre 10h et 19h pour éviter que des joggeurs sortent au moment où les gens vont travailler et faire les courses.
Vous voulez qu'on s'énerve tout de suite, quoi.
C'est ça,
vous
voulez. C'est de mauvais poil dès le début, quoi.
88% des Français sont pour cette interdiction.
Ça vous gêne pas puisque vous courez ou avant ou après vous, tout Christian, donc c'est pas un problème.
Et puis avec prudence.
C'est surréaliste.
Ouais, alors ils sont pour l'interdiction, mais je pense que ce qui choque, c'est pas ça, c'est le créneau. Enfin, c'est le fait qu'on ait reporté le problème et que tout le monde sorte à 19h. Le fait qu'on interdise, je pense que ça pose problème à personne.
Mais c'est surréaliste total, hein, cette mesure.
Et 80. S'il te plaît.
Mais c'est
le baromètre d'Oxa.
Vous savez, moi j'adore les baromètres et les thermomètres.
Ah non, c'est la mesure qui trouve surréaliste, c'est pas le baromètre.
Bon. Bien sûr, j'adore le baromètre et les thermomètres aussi d'ailleurs.
Alors, le déconfinement n'est absolument pas à l'ordre du jour. Imaginez les footeurs reprendre bientôt l'entraînement. Est-ce que c'est bien sérieux? Je pose la question tout d'abord à Bichente Lizarazu.
Non, pour l'instant non. Pour l'instant non. Après, il leur faudra énormément de temps avant de pouvoir faire un match de compétition. Mais pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour.
Au Bayern, ça a commencé. Hein.
Ouais, ça a commencé parce qu'en Allemagne, il y a moins de problèmes.
Non, mais surtout aussi, Bichente, excuse-moi.
Ça répond plus à la question de tout à l'heure, Christian. C'est est-ce qu'on doit donner une autorisation spéciale aux sportifs professionnels?
Est-ce qu'on doit les privilégier, grosso modo?
Voilà, mais je ne vais pas dire ça. Mais il y a des métiers qui. En tout cas, on conseille que l'activité. Dans certains métiers puissent se faire. Alors il y a des métiers qui sont nécessaires pour la vie quotidienne et puis je sais pas, dans le bâtiment par exemple, je vois qu'il y a une tendance où on essaye de faire repartir l'activité aussi quoi.
Alors en l'occurrence c'est pas un métier nécessaire celui du football, reconnaissons-le, Stéphane Powels.
C'est pas nécessaire, mais à côté de ça, moi je veux pas parler de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux.
Tu es quand même très concerné car en Belgique là.
Ah non, mais attendez, là vous allez vraiment me rendre dingue. D'abord, je vais vous répondre sur le Bayern de Munich. Il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'au Bayern de Munich, avant de s'entraîner, eux ils ont des tests. Ils en ont 500 000 en Allemagne. Donc on arrive à tester les gens, de voir s'ils ont avant un entraînement ou pas le virus. Donc c'est quand même plus facile de faire entraîner des mecs quand on sait qu'ils n'ont pas le virus. En Belgique, on l'a pas. On est comme en France, on est les parents pauvres. On n'a pas de masque, on n'a rien. Donc ce qui est surréaliste, c'est qu'en Belgique, à Anderlecht, ils ont donc décidé de laisser reprendre les entraînements à celui qui veut. Ça, je ne l'invente pas. Hein. Donc c'est au bon vouloir. Mais c'est du surréalisme total, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense que où tout le monde s'entraîne avec des règles strictes, ou personne, mais pas un petit peu à la petite semaine. En Allemagne, je pense qu'ils sont, excusez-moi, beaucoup mieux organisés.
Oui, enfin, bon, ça, on en a discuté aussi la semaine dernière, mais je veux bien qu'on en rediscute d'ailleurs ce soir avec Bichente pour savoir ensuite comment ce programme physique s'accompagnera pour.
Ça, c'est autre chose, Christian.
On en parlera.
C'est sur les autorisations sanitaires.
Sur les autorisations sanitaires. Bichente ?
Non, mais là, encore une fois, pour moi, à partir du moment où, sur le plan sanitaire, les choses sont respectées, ça ne me pose strictement aucun problème que les gens travaillent et que les sportifs fassent leur travail. Ça ne me pose pas de problème. Mais la problématique, c'est juste de respecter ces règles sanitaires. Et ce n'est pas évident. Et ce n'est pas évident dans le foot de les respecter.
David Ayello.
Oui, mais je suis d'accord avec toi, Bichente, dans l'absolu, sauf que là, on est sur une question qui est un petit peu symbolique parce que finalement, ce que nous dit ce baromètre, c'est que les Français ne veulent pas qu'on crée comme ça des privilèges et en plus, alors, je ne parle même pas avec les footballeurs qui ont déjà cette image un petit peu de privilégié. Là, je trouve que donner ce signal-là, là, la question, c'est le mot d'ordre plutôt, c'est l'union sacrée, l'union générale. Si là, on commence à donner des privilèges aux footballeurs, et puis alors après, si c'est les footballeurs, ça va être tous les sportifs, ça va pas être que les footballeurs.
Oui, les cyclistes ont demandé de pouvoir aller rouler tout seul.
Voilà. Exactement.
Donc
pour moi, c'est plus une question de com, presque, ou de symbole, plutôt qu'effectivement de bien fondé.
Oui, mais alors, si on va au bout de la logique...
Ça dépend, si tu utilises le terme privilège, c'est foutu.
C'est pour ça qu'il utilise le terme dérogation.
En fait, je vais te dire quelque chose. Il y a aujourd'hui une partie de gens qui travaillent. Pour des choses qui sont, on va dire, essentielles. Et puis, petit à petit, on sent bien qu'il y a la volonté de faire repartir une partie de l'activité économique. Donc, tu vois de nouveaux métiers qui recommencent à travailler. À partir du moment où les règles, on va dire, sanitaires sont respectées, ça me gêne pas. Donc ça peut être le cas dans le sport ou pas, et ça dépend des sports d'ailleurs.
C'est important ce que tu dis, Michel, tu parles de la notion de métier, et c'est là que les sportifs professionnels essayent d'insister, c'est-à-dire que eux, ce n'est pas pour le plaisir ou pour autre chose, c'est pour vraiment exercer leur métier, s'entraîner pour pouvoir reprendre leur activité quand ce sera possible. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire personne s'entraîne et c'est très bien comme ça. Mais dans ces cas-là, et je vais peut-être choquer, personne ne va faire de jogging, peu importe l'heure à laquelle tu vas faire un jogging. Pourquoi ?
C'est pas pareil.
Attends, laisse-moi finir. Pourquoi, avant 10h du matin, tu peux avoir 15 mecs qui se baladent dans la même rue à faire du jogging et à 19h avoir un embouteillage parce que les gens vont tous courir à 19h et tu vas croiser autant de monde que si tu as 4 joueurs de foot pro qui, sur un terrain réservé, privé, où il y a de l'espace et où on leur prend la température température avant et on leur fait des tests, etc. Si ces gars-là à 4 sur un terrain, ils peuvent pas s'entraîner, pourquoi il y a 50 badauds qui peuvent aller faire un footing au même endroit à la même heure le soir à 19h? Dans ces cas-là, tu interdis complètement le footing.
J'ai du mal avec la comparaison du jogging parce qu'on fait de cas de Paris un cas exceptionnel, une généralité, ce qui est totalement faux.
Bah c'est à Paris hein, où on a pris des
mesures. Justement, c'est un cas exceptionnel. Moi, j'habite pas Paris, mais à Saint-Ouen, de l'autre côté du périph, où on peut courir à n'importe quelle heure, je rencontre absolument personne. Pour ce qui est des entraînements, moi, je ne comprends pas qu'on parle...
Je rappelle que pour 58% des Français, dans cette même étude, les Français souhaiteraient que cette mesure s'étende dans toutes les villes.
Oui, mais le problème, j'imagine que ça a été fait après les images qu'on a tous vues le long du canal, où on voit des centaines de personnes qui courent en même temps. Ce qui est un microcosme à Paris et dans certaines villes, mais c'est pas la France.
Mais qui doit être interdit quand même.
Non, mais il y a quelque chose qui vous échappe.
Bruno, c'est totalement débile d'avoir mis des créneaux.
Il y a quelque chose qui vous échappe, c'est que ce que Mme Hidalgo a dit, c'est pas que le jogging, ce sont les activités physiques sur des créneaux. On soit bien d'accord. Ça veut dire aussi le vélo. Ah oui. À Paris, vous ne pouvez plus faire du vélo la journée.
Jamais.
Jamais.
Ça n'a jamais été autorisé.
J'en vois plein. Il y a des mecs qui te disent, mais on fait du vélo, mais c'est pas grave, c'est pas dangereux. Je vous explique. C'est pas le problème de transmettre forcément le coronavirus. C'est le problème aussi que si vous tombez, vous vous cassez la clavicule, il va falloir vous hospitaliser et vous allez prendre des lits de personnes qui sont vraiment malades.
Là, on sort du sujet.
Ouais. On sort du sujet. Mais c'est pour vous dire.
On sort du sujet.
Mais je suis en train de vous dire qu'il faut mettre des règles strictes.
Parce que le vélo, si tu peux raisonner différemment, le vélo, c'est un moyen de transport. C'est pas que une activité sportive.
T'en connais beaucoup qui vont travailler en vélo, toi. Moi, j'en connais pas des tonnes.
C'est un moyen de transport.
Ah, mais là, c'est
un moyen
de transport. Alors, à ce moment-là, il faut venir avec ton autorisation.
Il y a des gens qui se déplacent avec un vélo.
Et avec ton autorisation.
Je peux te dire qu'en Allemagne, ils conseillent de faire du vélo en ce moment. Tu vois, c'est pas
les
mêmes règles.
Essaye de m'expliquer, Bichente, en quoi s'entraîner deux par deux, mais retrouver ensuite sur une table de massage un kiné, puis ensuite retrouver ses partenaires dans les vestiaires, prendre la douche ensemble, et puis taper la causette ensuite avec, je ne sais pas, la secrétaire du centre d'entraînement du Bayern Munich, en quoi toutes ces barrières de sécurité, tu peux assurer qu'elles sont respectées?
Ah ben je n'en suis pas sûr du tout. Non, honnêtement, c'est une usine à gaz, l'organisation de l'entraînement d'une équipe de foot. non, c'est une usine à gaz, c'est très compliqué. Et puis bon, en plus de ça, si tu veux vraiment être efficace, il faut faire tu vois, un entraînement d'équipe, tu fais des oppositions, enfin à un moment donné, tu peux pas faire que la préparation.
Tu peux pas tacler, ils ont dit au Bayern.
Des oppositions, donc tu dois être, je sais pas, 5 contre 5 à un moment donné. Enfin, tu vois, donc tu rentres dans un cadre qui est compliqué en ce moment. Donc, franchement, de toute façon, je vais te dire quelque chose. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas décidé quand on pourrait reprendre le championnat, et je ne parle même pas d'un championnat avec du public, je parle déjà d'un match à huis clos, ça ne sert à rien de se projeter, et au fond, ça ne sert à rien de faire, ces entraînements-là,
et c'est pour ça,
autant s'entraîner, raison, s'entretenir à la maison.
Et c'est pour ça qu'il faut faire aussi preuve de beaucoup d'humilité, car on ne sait rien la période de déconfinement, comment ça va se passer, etc.
Et juste, je voulais dire que Bruno Constant a énervé le maire de La Baule, qui dit « Pourquoi vous parlez toujours que de Paris? Parce que moi aussi, les gens font du vélo et courent partout, et ça m'énerve. » Voilà, donc à La Baule aussi, mon cher Bruno, les gens ne respectent pas
la promenade des Anglais,
et vont
c'est
courir.
Pareil,
et voilà. Non, mais il n'y a pas qu'à Paris, quoi.
Il a raison, le maire.
Et le maire de La Baule, écoute, on fait le match.
Et je pense qu'il faut respecter les consignes. Mais Bichente vient de dire exactement ce qu'on veut entendre. Excusez-moi, il vient de vous dire, d'abord, on ne sommes pas médecins, on ne sait pas quand ça va se régler, ce problème sanitaire. On est en train de nous... Excusez-moi, mais ça devient la folie. On est en train de nous demander où on va s'entraîner. Au Bayern, on s'entraîne. En Belgique, c'est au petit bonheur la chance.
Enfin, José Mourinho entraîne ses joueurs dans un parc londonien. Hein.
C'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a fait entraîner quelques joueurs. Il y avait notamment Serge Aurier, Ndombele... Davinson Sanchez, c'était 3 ou 4.
Ceux que tu peux pas laisser à la maison parce que sinon ils
sont en train de se perdre en difficulté.
Ils se disent vont choper quelque chose. Quoi.
Mais il les a fait courir dans un parc au nord de Londres.
Et le pire
de tout ça, donc en public, mais le pire de tout ça avec les survêtements de Tottenham, c'est-à-dire qu'ils étaient reconnaissables de très très loin. Et en plus, évidemment, ils ont été filmés parce qu'il a d'abord démenti.
Est-ce que c'est pas volontaire?
Mais non, mais en plus, c'est totalement absurde de les faire s'entraîner en plus avec les survêtements du club.
C'est le show Mourinho, il aime bien.
Lui, déjà, dans un premier temps, a démenti en disant que non, il courait à 15-20 mètres de distance, etc. Les vidéos qu'on a vues ont montré que c'était totalement faux. Donc il s'est excusé. Mais c'est surtout que quelques semaines avant, on avait vu surtout des joueurs de Tottenham s'entraîner par une espèce de visioconférence. On avait les écrans de tous les joueurs de l'effectif qui faisaient du vélo ou du tapis face à leur coach. Donc c'est-à-dire que c'est possible aussi de s'entraîner à la maison. Si le club a anticipé, en l'occurrence Tottenham, ils ont anticipé. Ils leur ont fourni des vélos d'appartements, de maisons.
Le Bayern aussi.
Dans un instant, on va justement reparler de la remise en route des joueurs avec Vicente, avec vous tous dans ce studio, bien évidemment. Mais Nicolas est avec nous, Nicolas de Marseille. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir à tous. Bonsoir.
Nicolas, bonsoir. Entraînement pendant le confinement, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Privilège, dérogatoire, il y a du bon, il y a du moins bon, ou c'est absolument impensable pour vous?
Non, moi je pense que c'est assez impensable. Quoi. Je vois pas pourquoi les footballeurs auraient ce privilège-là de sortir du confinement et d'aller s'entraîner comme si de rien n'était avec le reste du groupe. Mm-hmm. Je pense que là vous avez Vicente qui est avec vous, qui connaît très bien la situation, encore plus celle du Bayern actuellement. D'ailleurs, je voulais lui poser cette question. Vicente, si tu peux me permettre de te tutoyer, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que tu penses justement du fait que le Bayern ait repris comme ça un peu avant tout le monde, en fait? C'est étonnant, non, de la part d'un club comme le Bayern?
Ouais, ça me surprend, mais c'est surtout que, encore une fois, pour des entraînements comme ça par petits groupes, je vois pas trop l'intérêt. Ils avaient déjà mis en place un système assez intéressant, assez intelligent avec caméra, avec les coachs qui leur donnaient les consignes, qui les corrigeaient carrément pendant les séances. Je trouvais ça plutôt pas mal. Les faire venir à 3, 4, je vois pas l'intérêt, parce qu'en fait, l'intérêt pour des footballeurs, c'est de pouvoir faire des petits matchs. C'est ça l'intérêt. Sinon, si tu veux faire préparation physique, honnêtement, tu peux faire la préparation physique chez toi, si tu es professionnel. Ouais. Bon, tous ne le sont pas.
Bichette, est-ce que tu crois pas que c'est presque mental pour s'aérer un peu, pour revoir 2-3 camarades, pour pas rester non plus constamment à la maison, si tu t'entraînes chez toi, ou tu fais du footing ou du vélo? Il y a un petit côté par petit groupe.
C'est le Bayern, c'est pas le football club du coin.
Mais justement, par petit groupe, de temps en temps, voilà, 3-4, vous pouvez discuter un peu, courir.
Les joueurs du Bayern font ça très sérieusement parce qu'ils se préparent déjà, et ça va être l'objet de notre deuxième débat, justement. Ils se préparent pour la suite et la fin de la compétition. On va remercier Nicolas d'être intervenu, évidemment, et on va évoquer tout de suite le sujet de la préparation. Est-ce que les joueurs seront prêts? Alors, en France, pour les 10 dernières journées, sans compter les matchs de Ligue des Champions, avant de réattaquer un championnat programmé, tant bien que mal, de façon virtuelle pour l'instant, par la Ligue pour le 23 août. Qu'est-ce qu'on en dit, notamment sur le confinement et les entraînements, Baptiste Delurieux, sur les réseaux sociaux?
Beaucoup de messages sur le compte Twitter RTL Foot, message de Zachary. L'important en ce moment est que tout le monde soit égaux, pas de privilèges, que ce soit Messi, Ronaldo ou Max-Alain Gradel, c'est pareil. Et puis message de Johan, excusez-moi, mais tous les soirs, c'est le marathon à Paris, c'est les Champs-Elysées, un soir de juillet 2018. Alors, en ce qui concerne le PSG, que les joueurs traversent Saint-Germain-en-Laye dans leur voiture blindée pour aller au camp des Loges, qui est une forteresse d'ailleurs, même en dehors du virus, je ne vois pas du tout où est le problème.
Christian, si vous permettez, désolé, parce que ça me fout vraiment en colère. Je ne suis pas un grand coureur rapide, mais je cours 3 fois par semaine et je le faisais bien avant le virus. Mais j'ai envie de dire le contraire vu mon physique, mais... Tais-toi.
Non,
je le dis avant que tu me chambres. Non, mais juste, je courais là en journée et franchement, je croisais de temps en temps des mecs qui faisaient leur jogging à 2-3 mètres. On faisait justement attention à ne pas se frotter, à la transpiration. Et là, le soir, c'est le marathon de Paris, comme vient de dire à nos auditeurs. Je suis désolé, je cours près du Bois de Boulogne à 19h. Eh bien, c'est blindé de monde. Ce qu'elle a fait là, madame Hidalgo, c'est complexement, excusez-moi.
Non, mais stupide. Tu ressors du sujet là.
C'est grave cette réforme.
Ce que nous dit l'auditeur, c'est pas parce que cette mesure-là est stupide et tout le monde dans le studio, et je pense que tout le monde, on l'a vu d'ailleurs dans le baromètre, est d'accord pour dire
qu'on est obligé d'autoriser les entraînements pendant le confinement. Je veux dire, ce sont deux choses là.
Mais c'est l'horaire qui est stupide.
Une chose qu'on a dit tout à l'heure, Paris c'est Paris et c'est pas...
Et la boule c'est la boule.
Voilà, et c'est pas partout. Paris ils ont décidé ça. Moi je vais vous dire quelque chose. Ce qui est important c'est les règles sanitaires. Ce qui est important c'est la distanciation sociale. Pardon, mais faire du sport dans cette période-là, ça fait du bien.
Ça fait du bien pour la tête,
ça fait du bien pour le corps. C'est une façon aussi de se défendre contre ce virus. C'est une façon aussi d'avoir ses défenses immunitaires au taquet. Faire du sport, c'est important parce que vous allez voir que dans quelques temps, on va nous expliquer que les gens, ils font rien, ils font plus rien. Mmh. Et on va nous expliquer. Refaites du sport, c'est important parce que vous allez avoir d'autres problèmes.
Mais tu peux pas de 10h à 19h.
Tu vois ?
Bon, Bichent, il y a un autre sujet.
Et ça, ça m'agace personnellement. Alors, tu vois, mais par contre, la règle numéro un, c'est distanciation sociale. Donc, un effet de. J'arrive pas à le dire. C'est de courir à la même heure et d'avoir des embouteillages avec des mecs qui courent tous en même temps. C'est absurde.
Le championnat de Ligue 1 pourrait reprendre le 23 août. Il reste tout de même à solder 10 journées. 10 journées plus les matchs de Ligue des Champions pour Lyon et le Paris Saint-Germain à compétitions différentes, en tout cas à dates différentes. Est-ce que tu penses que c'est jouable de pouvoir tout caser, Bichente, à la fin en imaginant, il faut rester vraiment très...
Le championnat terminerait ou démarrerait le 23 août ?
Le nouveau championnat démarrerait le 23 août.
Le nouveau championnat.
Oui. Et les dirigeants du football français tablent sur une reprise de l'entraînement, on va dire mi-mai, pour une reprise des matchs, puisque la saison reste à solder, on va dire...
Fin juin,
avec une fin du, non, de la Ligue 1, fin juillet.
Oui, reprise des matchs fin juin pour les terminer le 15 juillet.
Donc, est-ce que... Le 25 juillet.
Oui. Alors, ce qui est totalement...
Écoute, c'est une hérésie. Alors, on va dire...
C'est une hypothèse, là.
Sur un tout petit mois, il y a 10 matchs, 10 journées de championnat.
Ce qui est extraordinaire dans ce scénario, c'est que la Ligue communique sur une date de reprise. Que tu travailles les différents scénarios possibles, c'est normal, tu ne peux pas rester sans rien faire en attendant que les choses se passent. Mais tu ne communiques pas sur une date de reprise de la saison prochaine juste pour faire genre pour le futur Media Pro ou chez ne sais qui va diffuser les droits télé, alors que tu ne sais même pas si tu termines cette saison, que tu n'as aucune date de reprise ni d'entraînement ni de match, que tu n'as aucune idée du calendrier qu'il faudra harmoniser avec le calendrier européen. Et nous, on arrive en France et on dit le championnat 2021 va commencer le 23 août. Mais on se fout de qui ?
Tu as raison, que la Ligue anticipe, c'est une chose, c'est son job, mais qu'elle communique, c'en est une chose, exactement. David Aiello.
Non, moi, ce qui m'interpelle dans ce qui s'est passé, cette séquence, cette semaine que tu viens de rappeler, Christian, c'est le calendrier pour les joueurs. Si on nous dit que la Ligue 1, cette saison, doit se terminer le 25 juillet et qu'elle doit reprendre ensuite le 23 août, et qu'entre les deux, à chaque saison, quand même, il y a une préparation d'avant-saison qui fait théoriquement 5 semaines.
Mais c'est pire, tu auras les matchs de Coupe d'Europe.
Effectivement, mais ça concerne que quelques équipes. Qu'en plus de ça, en tout cas, tu dois caler les vacances des joueurs, parce que je rappelle que administrativement, comme beaucoup de Français, les joueurs n'ont pas été en vacances là, sur cette période.
Mais t'as quand même une régénération des organismes.
Mais t'as quand même, sur 4 semaines, tu dois caser 5 semaines de préparation physique habituelle avant une saison, plus les vacances des joueurs.
Bichette, il faut combien de temps
j'ai la solution.
Il faut combien de temps pour retrouver une bonne condition physique, pour terminer les 10 matchs et puis réattaquer la nouvelle saison?
4 semaines.
4 semaines pour réattaquer les 10 matchs?
Oui, moi j'ai entendu dire un président parler de 3 semaines. Non, il faut 4 semaines pour être prêt à faire des matchs de compétition.
Donc si tu démarres
et donc en fait, moi je vais vous dire, aujourd'hui en fait la difficulté de ce calendrier, c'est qu'on peut pas tout faire. Il va falloir faire des choix. Et la priorité, on l'a dit, c'est le championnat, parce que le championnat il détermine les qualifiés en Coupe d'Europe, les relégables.
10 journées.
Donc c'est le championnat. Si on prend une marge, vous parliez de mi-mai de reprendre l'entraînement. Moi je dirais allez 1er juin. 1er juin tu reprends l'entraînement. Donc tu reprends la compétition 1er juillet et tu termines la compétition le 1er août, puisque tu peux considérer que 10 matchs en un mois, tous les 3 jours, grosso modo, tu peux le faire.
Ce sera plus le 15 août.
Ce
sera plus le 15 août. 1er juillet, 15 août, si tu veux faire 10 matchs, il faut quand même 6 semaines.
Moi, je te dis 3 jours. 3 jours, tous les 3 jours. J'ai pris une base de tous les 3 jours.
Bruno Constant n'est pas d'accord.
Juste
pour terminer, je laisse tomber la Coupe d'Europe.
Comme Jean-Michel.
Je laisse tomber la Coupe d'Or parce que je vois pas comment tu vas pouvoir tout faire.
Il a raison.
La Coupe d'Or, je vois pas comment tu vas pouvoir tout faire. Parce que si en plus de ça, il faut rajouter la Coupe d'Europe, des dates pour la Coupe d'Europe, comment tu fais pour respecter la date du 23 août?
Je t'en prie. Juste une précision sur la préparation. Moi, j'ai demandé à deux préparateurs physiques, un qui travaille en Angleterre et un qui travaillait avec Eric Guéretz à la Fédération marocaine. La plupart disent il faut 4 à 6 semaines pour revenir à la compétition, pour seulement revenir à la compétition. Ils expliquent, si on est dans un cas exceptionnel, allez, au minimum, vraiment au minimum, il faut 3 à 4 semaines. Et quand les préparateurs expliquent que comme ils n'ont pas coupé totalement sur les 4, 5, 6 semaines qui vont découler du confinement, ils peuvent éventuellement, dans le cas exceptionnel, refaire en 3 semaines, à condition, de toute façon, de ne pas jouer tous les 3 jours.
Ouais, mais
et
Bruno,
ça, il y a beaucoup de
scientifiques.
Il y a un danger de rejouer tous les 3 jours, de rattaquer avec de jouer tous les 3 jours.
On coupe jamais complètement. Donc c'est la même situation aujourd'hui. C'est la même situation que entre deux saisons. C'est-à-dire que si tu as 4 semaines de break, les mecs s'entretiennent toujours un peu. Enfin, il y a des mecs qui sont plus ou moins professionnels, quand je te dis plus ou moins sérieux, mais globalement, les mecs, ils s'entretiennent. Mais pour autant, ça ne remplace pas. C'est faire des petits entraînements à la maison, faire du gainage, faire des abdos,
ça n'a rien
faire
à
un peu
voir
de cardio, ça ne remplace pas la préparation physique. Et rappelez-vous juste un truc, hein, c'est, on parle de 4 semaines de préparation physique, et quand les mecs reprennent la compétition, très souvent, vous voyez, les mecs disent « Ouais, bon, je ne suis pas encore prêt
mais
à 100%,
sûr, mais Michel...
et il faut presque 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois de plus Michel... pour vraiment être au top. »
Michel, la semaine dernière, il y avait notre collègue Philippe Sanfour, je lui disais 2 semaines. C'est impossible pour les raisons que Michel vient de dire, c'est impossible. D'abord, moi j'ai eu cette chance avec Philippe Lambert, qui est un bon préparateur physique, d'avoir fait 3-4 préparations avec Vaïd à l'époque de Lille. C'est minimum 1 mois pour commencer, comme dit Bichent, à rentrer dedans dans les matchs de préparation. Ici, on voudrait que du jour au lendemain, les mecs soient à 100%, c'est pas possible.
Et j'en reviens
pour ce qu'a dit Bichent et Lizarazu, c'est, il a raison, la Coupe d'Europe, stop. Ah, je sais que je vais encore disputer avec David Ayello.
Ça veut dire quoi, stop, les amis? Ça veut dire quoi,
la Champions League?
On oublie, c'est,
on oublie la Champions League.
Mais vous êtes vous plaisantez ou quoi?
Mais non, je ne plaisante pas, je suis très sérieux.
Mais les enjeux financiers.
Mais les enjeux financiers. Mais alors, vous n'allez pas pouvoir tout jouer. Donc,
on ne peut pas tout faire. Et bien, on ne peut pas tout faire.
Moi, j'ai une question pour toi, Bichent. Est-ce que si tu refais une vraie préparation là au mois de juin, pour reprendre la compétition, comme si tu faisais une préparation d'avant-saison quelque part, que tu refais une vraie préparation, est-ce que ça peut servir? Est-ce qu'on pourrait éviter la coupure d'été de vacances?
Mais oui, mais alors, c'est ça ma théorie, c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de l'expliquer.
Est-ce que tu peux enchaîner avec la saison, en fait?
C'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure, c'était ma proposition.
Passe décisive.
C'était ma proposition, justement, et j'ai pas pu aller au bout de ça, c'est que justement, pour essayer de gagner du temps, je ferai une vraie préparation, c'est-à-dire que je prendrai vraiment le temps de faire cette préparation-là.
La raison.
Pour enchaîner sur la saison 2020-2021.
Mais bien sûr, et pas de vacances.
C'est ça le truc. C'est-à-dire que tu n'es pas de vacances. Ou
mais
alors, tu peux éventuellement faire comme l'hiver. Tu mets une semaine, 10 jours, si tu veux. Mais pour moi, tu enchaînes, justement pour gagner un peu de temps et te servir de cette préparation pour 2 championnats. Finir un championnat et commencer l'autre.
Ce que je vous propose, c'est de poursuivre le débat derrière les informations de 19h. Est-ce que les joueurs pourront encaisser effectivement le nouveau programme? D'autres débats, bien sûr. Chômage partiel, baisse des salaires, faut-il craindre des cessations de paiement et des dépôts de bilan pour certains clubs? Malgré la crise, le prochain mercato s'annonce-t-il déjà chaud? Benzema, Giroud, pourquoi tant d'aigreur? On parlera également du football amateur.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
On fait le match jusqu'à 20h en compagnie de Bichent, Lizarazu, David Ayello, Stéphane Powels, Bruno Constant, Eric Silvestro, et pour tous vos messages sur le compte @RTLFoot, compte Twitter, et pour les relayer ces messages bien évidemment, Baptiste Durieux. On va terminer, messieurs, sur ce sujet combien chaud, reprise ou pas du championnat, 2 championnats enchaînés. Elle est pas mal ta suggestion, Bichent, sur le fait, l'idée d'enchaîner les 2 championnats. Mais une petite question technique, le mercato, comment tu fais?
Mais on peut pas régler tous les problèmes là. Là, moi, je règle le problème sportif.
Mais tu me dis pourquoi, Michel?
Moi, je règle le problème athlétique. Ça sert à rien de faire. Tu vois, tu vas faire une préparation, tu vas t'arrêter, tu vas refaire une préparation, tu perds du temps. Moi, je pense. Alors, c'est pas des vraies vacances, bien sûr, mais à un moment donné, il faut faire des efforts. Il y a quand même une pause, les corps récupèrent un peu, ils s'entretiennent, ils font pas de gros efforts. Et c'est pour ça que je trouve que ça serait mieux de faire une vraie prépa pour finir la saison actuelle et puis commencer l'autre. Après, la question, et je vois pas où on peut le placer, c'est comment tu fais pour terminer les Coupes d'Europe.
Je ne sais pas, pour moi, je ne le vois pas. C'est juste qu'il faut partir sur un nouveau format. On est d'accord que si tu pars sur le format actuel, c'est injouable. Après, tu termines les huitièmes de finale et puis tu fais un Final 8. Et puis,
et pourquoi pas, mais
8 à 12 équipes.
Je parle de l'état actuel des Coupes d'Europe. Je ne vois pas comment on peut les terminer.
C'est impossible.
Ça peut être un autre format, peut-être.
Sur un autre format, sur le mois d'août, tu décales un petit peu.
Alors, Christian Olivier, qui lui dit que forcément, financièrement, c'est impossible d'annuler ces compétitions-là.
Ce n'est pas que ça, c'est aussi sportif.
Non, mais rendez-vous compte, l'UEFA a déjà lâché cette année son championnat d'Europe des Nations. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'UEFA est prêt à lâcher sa Ligue des Champions?
Christian, je ne vous dis pas que je le pense. Je vous dis que par rapport à ce que dit Abichent, il y a un moment, il va bien falloir se séparer de compétition, sinon on ne va pas savoir tout placer.
C'est pas possible.
Donc on va devoir faire des choix. Vous me dites, il y a trop d'enjeux financiers pour la Champions League.
C'est sportif.
Et moi, je vais vous dire un truc qui va vous faire hurler, je l'ai déjà dit, et qui énerve mon ami David. Tout le monde s'en fout de la Champions League, à part les puristes du football. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. En France, il n'y a que Paris et Lyon qui s'inquiètent de ça. Je suis désolé, l'important, c'est d'abord leur club, les supporters de Rennes, les supporters de Nantes, les supporters de
Basse. Ça leur fait pas plaisir de voir des beaux matchs de Ligue des
Champions. Mais ils veulent d'abord que leur équipe, à eux, ils ont payé des abonnements, que leur équipe.
Tu parles du football français, du PSG et de Lyon, mais va dire ça, Bruno Constant, au football anglais.
Il n'y a plus que City, tout le monde est éliminé.
Et notamment à Manchester City qui va être exclu des compétitions pendant deux ans.
Bruno, c'est une équipe.
Le problème, c'est pas les Coupes d'Europe. Le problème, c'est de fixer une date dès maintenant de la reprise du prochain championnat au 26 août ou 23 août. C'est totalement stupide. C'est une hérésie. Pourquoi pas le mettre à ce moment-là au 15 septembre ? Qu'est-ce que ça change ? De toute façon, il y a une coupure internationale début septembre de 15 jours. Donc, en fait, on va rejouer deux journées.
C'est un scénario.
Oui, c'est un scénario, mais tu es obligé aussi de penser au championnat d'Europe, à la date du championnat d'Europe en 2021.
Oui,
bien
sûr.
Si ton championnat il redémarre, admettons, je sais pas, si c'est la Cata, on redémarre qu'en octobre ou en novembre, ça va.
Non,
poser,
tu peux démarrer en septembre. Chacun
son tour, les amis. Chacun son tour.
C'est hypothétique, on ne sait pas quand on va reprendre. Mais c'est pour ça que moi je disais, bon, si on se donne allez, un mois et demi en se disant, ok, 1er juin, les gars peuvent reprendre l'entraînement, tu fais 1er juillet. Par rapport à ce qui se dit aujourd'hui, le déconfinement, on peut l'imaginer comme ça. Si finalement c'est plus compliqué que prévu, tu vas te retrouver dans un nouvel embouteillage. C'est l'embouteillage de la date de l'Euro.
Il y a aussi quelque chose, Bichette, en termes d'intégrité physique des joueurs. Tu me parles de Champions League, des joueurs de City. Le mec, il va devoir terminer son championnat, jouer la Champions League, jouer pour son équipe nationale. Les mecs, c'est Robocop.
Non, mais on a parfaitement compris ça, Stéphane. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est de se dire que.
Mais il va devoir supprimer des choses.
C'est 2 à 3 matchs.
Sacrifier la Ligue des Champions, c'est ce qui est le moins compliqué, je dirais, d'un point de vue.
Vous êtes des doux rêveurs, les amis. Vous êtes des doux rêveurs. Et en plus, ce serait une formidable opportunité pour les gros clubs européens de créer sa ligue fermée.
Mais ici, c'est le moins compliqué.
Si vous privilégiez les championnats nationaux et vous préférez voir jouer Dijon contre Strasbourg.
Non, ça n'a rien à voir avec ça.
Mais ça a à voir avec ça également.
C'est juste sur l'organisation, c'est qu'il faut terminer le championnat pour déterminer un classement. À partir de ce classement, tu as des gens qui vont faire la Coupe d'Europe et d'autres qui vont être relégués en deuxième division.
Il y a trop d'enjeux aussi.
C'est très important, c'est la base. Évidemment que la Coupe d'Europe, c'est hyper important pour les grands clubs, c'est hyper important, et même pour les fans de foot.
Mais voilà, j'allais dire.
Mais tu peux pas tout faire à un moment donné, il faut sacrifier des choses.
Je pense que vous sous-estimez la puissance financière de la Ligue des Champions. Ne parlez pas des fans de foot.
Mais c'est surtout la puissance financière. Arrêtons de fixer des dates de reprise de certaines compétitions avant de finir les précédentes. Finissons toutes les championnats, toutes les compétitions de la saison, le championnat de Ligue 1, les différentes Coupes d'Europe. La Coupe d'Europe, on parle de Ligue des Champions. Suivant le format, la Ligue des Champions, suivant le format qui a été proposé d'un Final 8, ça va être une semaine. C'est trois matchs tous les trois jours. Enfin, trois matchs étalés sur une semaine. C'est rien, une semaine.
C'est pas un sujet.
Donc, on peut la placer.
Il faut déjà remettre le calendrier quand même à jour, parce que tu as des clubs qui sont déjà qualifiés pour les quarts de finale, pendant que d'autres clubs n'ont toujours pas joué leur huitième de finale.
Oui, mais donc ça ajoute une date en plus. Donc, au lieu d'être une semaine, ça va être 10 jours. Ensuite, la Ligue 1, on la place le moment où on pourra la placer, mais on ne décide pas dès maintenant du 26 août, comme ça, qui sort de nulle part. L'Euro, pourquoi l'Euro ?
Non, c'est pas officiel. C'est une réflexion.
Pourquoi on a fixé les dates dès maintenant de l'Euro 2021. Pourquoi on a fixé des dates ? Pourquoi ne pas les étaler de commencer fin juin et finir fin juillet ? Qu'est-ce qui nous en empêche de les caler 15 jours ?
Parce que l'UEFA a ces dates. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Voilà. Oui, mais c'est totalement stupide.
Les grandes fédérations et les grandes organisations ont présenté les dates comme les Jeux Olympiques.
Et dans deux mois, on sera obligé de le redécaler.
Non, mais après, on peut très bien rattraper une partie du retard. Moi, j'entends qu'on peut jouer 10 matchs ou 12 matchs tous les 3 jours en juillet ou en août, après avoir fait une pauvre préparation de 4 semaines où les mecs vont se péter.
C'est pas possible.
Donc, c'est pas une pauvre préparation de 4 semaines. 4 semaines, c'est une bonne préparation.
Oui, mais il y a un vrai risque. Si tu joues tous les 3 jours.
Il y a un risque. Il y a un vrai risque.
Tu n'attaques pas une saison en jouant tous les 3 jours.
Les préparateurs physiques le disent, il y a un vrai risque de blessure. On ne rattaque pas par des matchs tous les 3 jours.
Non, mais on peut très bien, moi je rejoins Bruno, on peut très bien reprendre les championnats plus tard, prendre le temps de les terminer en août, voire même début septembre. Alors, on ne peut pas aller jusqu'en décembre ou janvier. Ou alors on fait un nouveau calendrier, comme le propose Jean-Pierre Hivert, le président de Nice.
On fait une année civile
jusqu'à la Coupe du Monde 2022 en décembre au Qatar. Mais admettons qu'on ne fasse pas ça. On reprend le championnat un peu plus tard, mi-septembre, début octobre. Et là, on va dispatcher des matchs, certains matchs tous les 3 jours, sur certaines semaines, pour rattraper le retard qu'on fait sur une année. Au lieu de jouer toutes les semaines, tu enlèves déjà la trêve hivernale, exactement, et tu mets toutes les, on va dire tous les mois, tu mets une semaine avec match tous les 3 jours. Ce qui veut dire que tu vas récupérer sur les 8 mois de la
tu
saison.
Tu vas garder les dates de la Coupe de la Ligue.
Tu vas garder les dates de la Coupe de la Ligue aussi.
Mais ce qui est sûr et certain par rapport à tout ce que vous dites, c'est l'option que dit Bichens, c'est qu'il faut faire une préparation en vue de terminer ce championnat et d'entamer directement le prochain championnat.
Mais c'est obligé.
De toute façon, t'as
c'est
pas obligé.
Parce que y a les pas propositions que vous nous faites là, les amis, vous êtes dans un monde de bisounours. Non. Les propositions que vous nous faites
un monde réel.
Pour faire le championnat, faire davantage de il faut absolument démarrer le plus vite possible. N'oubliez pas qu'il y a un deuxième contrat qui est à venir.
Mais voilà,
c'est le contrat avec Mediapro qui est à venir.
Mais il n'y a pas que la France. Moi,
mais il n'y a pas que la France. On parle du football français actuellement.
Mais oui, mais tout doit être harmonisé.
Il y avait des enjeux à plus d'un milliard d'euros.
Mais non, mais Christian, tu peux pas avoir le championnat de France qui va se terminer le 15 juillet parce que Mediapro commence début août. Le championnat d'Allemagne qui va se terminer à tête date parce que si, parce que là. Alors, il va falloir un minimum d'harmonisation.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recommence les mêmes conneries qu'avant en fait. Parce que là, c'est quoi la priorité? La priorité, c'est les athlètes, c'est les footballeurs.
Donc
la priorité, c'est de faire en sorte que les mecs se préparent de la meilleure façon pour jouer leur compétition.
Non, mais à un moment donné,
c'est la question, c'est on va continuer les mêmes conneries après le coronavirus ou on essaye de changer, on essaye de s'améliorer un petit peu.
Donc,
la priorité pour moi, c'est les athlètes et donc que les mecs ils puissent avoir une bonne préparation, que cette préparation elle serve à 2 saisons, éventuellement qu'on sacrifie les compétitions ou alors, comme Bruno l'a dit, c'est pas mal le Final 8, tu vois, qui fait que t'as que 3 matchs et que t'arrives à le régler en peu de temps. Très bien pour la Coupe d'Europe, pourquoi pas, ça peut être un bon compromis, mais pour moi voilà, c'est le championnat terminé et surtout que les athlètes puissent faire les compétitions dans des bonnes conditions. 4 semaines c'est un minimum,
vous donnez la priorité aux
et après
athlètes.
Jouer tous les 3 jours,
je pense que
moi
vous
je dis que si t'as de la rotation
les athlètes,
dans les effectifs,
les
pourquoi pas.
On va prendre Aurélien sur le 3210 de Sainte-Geneviève-des-Bois dans le 91. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir messieurs.
Alors les joueurs au top, ouais. Physiquement, ça, qu'est-ce que vous en pensez vous?
Ouais, bah, c'est un grand débat. Moi ce que je pense, c'est qu'effectivement il y a des priorités. La priorité, c'est d'abord la santé des joueurs, donc il faut faire les choses bien, et ça on pourra savoir comment faire à partir du moment où on aura une date de reprise dans un sens. Donc évidemment priorité à la santé des joueurs, et j'ai malgré tout, je pense que même dans des situations comme celle-là, il faut, et je pense que c'est le cas dans les grands clubs, il faut faire preuve d'un peu de roublardise. Et en fait je pense, et la chance qu'on a, c'est d'avoir Bichente Lizarazu, il va peut-être pouvoir nous donner son avis, c'est qu'au Bayern Munich ils ont repris l'entraînement, et je pense que au fond d'eux ils se disent, étant donné qu'ils ont quand même une grosse équipe cette année, c'est peut-être l'année de la Ligue des Champions. Et le fait de reprendre comme ça en amont, en sachant que la Juve a été très touchée, qu'il y a des clubs aussi qui sont très touchés, c'est peut-être aussi un moyen d'aller gagner la Ligue des Champions en reprenant l'entraînement le plus tôt possible.
Je pense qu'Aurélien a raison, et j'ajoute Bichente que Nasser El Khelaïfi, hier, lors du bureau de la Ligue du football professionnel, n'a pas manqué de rappeler aux autorités du football français que si le championnat redémarrait le 23 août, il faudrait aménager le calendrier du PSG, car le Paris Saint-Germain a bien l'intention également de disputer et voire peut-être de gagner cette saison.
Bien sûr, Nasser El Khelaïfi va négocier les droits télé alors qu'il est partie prenante. Il va aller la Coupe d'Europe, le championnat.
Et à un moment,
Faut arrêter
de rigoler.
Merci Aurélien. La réponse Bichente à Aurélien.
Non, le Bayern ne fait pas. Le Bayern a gagné 5 Ligue des Champions, donc bon, ils n'ont pas attendu le coronavirus pour essayer de la gagner encore une fois. Ils essayent simplement de maintenir les joueurs dans la meilleure forme possible, voilà, de façon la plus efficace possible. Ils le faisaient chez eux, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ils le font maintenant par petits groupes. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, après de toute façon c'est une galère cette coupure pour tout, si on reprend la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain par exemple, avec des gars qui sont partis chez eux au Brésil, en Uruguay pour Cavani, c'est une galère. C'est une galère parce que
Cavani, lui il est à la pêche, en Uruguay il n'y a pas de confinement.
C'est une galère pour les préparateurs physiques, c'est une galère pour le coach, parce qu'ils sont tous, enfin ils sont partis, tu ne sais pas ce qu'ils font vraiment, et puis ils ne peuvent pas s'entraîner dans les bonnes conditions, donc ça va être difficile de savoir dans quel état les mecs
vont revenir. Il y a des joueurs du Bayern qui sont partis, Bichente ?
Aucune idée, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Christian, est-ce que vous allez parler sur ce mercato tout à l'heure?
On va y venir.
Non, mais parce que
quand même un truc
le mercato
qui va être terrible.
Parce que je veux dire, comment tu gères les transferts de joueurs pendant que tout le monde termine la saison et reprend quasiment.
Le mercato, tu l'as mis en mois d'août alors que le championnat reprend.
Non, mais moi je pense.
Après, il y a la problématique des contrats aussi.
La problématique des contrats.
C'est là où tout se passe.
Vous avez les contrats, c'est au 30 juin.
J'ai mis un peu le feu. J'ai mis un peu le feu sur cette histoire de mercato.
Oui, alors il est temps de l'éteindre.
Ben oui, mais parce que ça va quand même être un gros souci.
Mais on va en parler du mercato. On va en parler. Messieurs.
T'as 19h16. Aucun mouvement qui se fait quand il n'y a pas de compète.
On va passer à autre chose là. 19h16, on fait le match.
RTL, on refait le match. Christian Olivier.
Mais il y a un lien de cause à effet, car on parle beaucoup de sport et de business, on parle de mercato, mais est-ce que les clubs d'ailleurs auront les moyens cette saison de transférer les joueurs? On y reviendra dans un instant. Hein. Je vous donnerai 2-3 pistes concernant du mercato qui pourrait être du lourd à la fin de la saison, parce que certains clubs vont peut-être profiter de la crise, mais en l'état actuel des choses, Eric Silvestro, David Aiello, Stéphane Powels, Bruno Constant et Bichente Lizarazu. Le gros dossier, c'est également le chômage partiel, la baisse des salaires. Ma question est la suivante, faut-il craindre des cessations de paiement et des dépôts de bilan pour certains clubs? Et en France, il y a des clubs qui sont quand même pas très bien, je pense notamment à l'Olympique de Marseille, voire à l'AS Saint-Etienne. David Aiello.
C'est vrai que je voulais revenir en même temps lier le sujet avec ce que vient d'évoquer Bichente sur la priorité. Est-ce que la priorité, c'est la santé des joueurs? On est tous d'accord là-dessus, sauf qu'à un moment, effectivement aussi, il y a l'économique là-dedans. Tous les clubs ont besoin de rentrer d'argent. Et là, il y a un paramètre qu'on n'a pas encore évoqué, c'est les diffuseurs. Il faut rappeler qu'en France en particulier, les diffuseurs, c'est parfois 50 voire 60% de la fiche de paie des joueurs à la fin. Et les diffuseurs, sans match, ils ne veulent pas payer.
Oui, mais si tu écoutes nos amis là, tous autour de la table, et même Bichente Lizarazu, eux, le contrat Mediapro.
Oui, mais sauf qu'il est là,
ils
contrat.
Ils veulent terminer leur digestion.
Il est là, sinon
faut que les télés peuvent pas forcer des joueurs à jouer si au niveau sanitaire.
D'accord, mais dans ces cas-là, tu peux pas non plus forcer les diffuseurs à payer.
Tu peux pas forcer à jouer des mecs.
Mais tu peux pas non plus forcer des diffuseurs à payer sans compétition. Donc ça veut dire qu'il faudrait un moment que les joueurs acceptent de baisser leurs revenus.
Parce qu'on n'a pas évoqué.
On
n'a pas évoqué s'il y a reprise de compétition, mais dans quelles conditions vont reprendre la compétition, même si c'est au mois de juin? Est-ce qu'on va faire du huis clos? Est-ce que c'est
évidemment.
Est-ce que c'est faisable des huis clos en France, que tu vas jouer, tu vas traverser la France en bus?
En tout cas, c'est sûr.
Là, tu nous remets le feu au débat de samedi dernier.
Mais tu as raison.
Mais c'est Bruno, il a raison. C'est inconcevable.
Attendez. C'est pas impossible. Ce sera toujours mieux que de mettre 50 000 personnes dans un stade.
La question, c'est pas de savoir si c'est mieux, c'est si c'est possible.
Si c'est possible, c'est possible.
Est-ce que c'est possible?
Tu vas confiner certaines régions
au niveau sanitaire.
Tu vas faire comment au niveau sanitaire?
Il faut bien que ça reprenne un moment.
De toute façon, mais si le championnat reprend. Après, donc on a dit 4 semaines de préparation, etc. À ce moment-là, le déconfinement léger sera forcément entamé. Sinon, il n'y aura pas de match.
J'ai l'impression Nantes qui ne pourra peut-être pas jouer à Strasbourg parce qu'à Nantes, ils n'auront pas été déconfinés. À Strasbourg, ils auront été déconfinés.
Très simplement, si le confinement n'est pas levé, de toute façon, il ne peut pas y avoir de match. Donc le débat est
clos. Oui, mais voilà. Même il ne peut pas y avoir d'entraînement.
Non, mais attendez.
Mais de quel déconfinement parle-t-on, Eric?
Quand le déconfinement va intervenir.
Lequel?
On nous a dit que
lequel
le déconfinement.
Réponds à la question. Mais lequel?
J'ai même pas le temps de
deux mots. Oui, mais là, tu
dis le déconfinement, il va être progressif.
Ah bah, d'accord. Alors, comment tu fais?
Donc progressif, ça veut dire déjà reprise de l'entraînement. Ça veut dire 4 semaines de préparation.
Ok, parlons des matchs.
Tout ça. Au bout de 6 semaines minimum, on va avoir quelques matchs. Vous pensez sincèrement qu'une région va accepter d'être confinée 2 mois de plus qu'une autre région?
Mais t'as pas le choix. Mais si la médecine nous dit que c'est comme ça,
ça ne peut pas être comme ça. Ça peut être progressif, mais ça peut pas être 3 mois d'écart entre deux régions.
Non, 3 mois peut-être pas, mais on ne te parle pas de 3 mois, on te parle simplement d'un petit mois.
Mais même un mois, tu ne pourras pas aller jouer, tu ne pourras pas traverser la France,
mais tu pourras forcément prendre un bus.
Peut-être qu'ils pourront jouer dans un stade qui est déconfiné plus tôt, et dans une région qui est déconfinée plus tôt. Comme tout le monde allait jouer dans un stade ou dans un.
Sinon, il n'y aura pas de match du tout.
Mais oui, mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter.
Ah, mais pas de match du tout, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Mais si le championnat reprend, c'est que forcément, il y a moyen de jouer les matchs, au moins à huis clos.
En Angleterre, ils pensent pouvoir délocaliser les matchs. Terrain neutre, stade neutre et à huis clos.
Oui, en faisant deux grands centres, deux grands camps d'entraînement, si on peut dire, entre Manchester qui serait pour le nord et Londres qui serait pour le sud. Mais là encore une fois, c'est pareil. Ils vont les mettre dans des hôtels, les enfermer dans des hôtels. Ce sera des mises au vert géantes de 2 mois ou 1 mois et demi. C'est inconcevable. J'ai vu que dernièrement, il y a les îles des Canaries qui proposaient d'accueillir la Liga pour faire un championnat fermé sur leur île et qu'ils peuvent accueillir tout le monde.
C'est Dana White, le patron de l'UFC, compétition de MMA, qui voulait organiser ça sur une île aussi.
Non mais là,
c'est
du grand n'importe quoi.
C'est pour ça que je dis, ça pourrait être. Tu pourrais jouer dans les régions déconfinées avant les autres. Bah, tu choisis un stade ou deux stades.
Du coup, tu jouerais sur terrain.
Tu fais un match sur ces stades-là.
Je te donne l'exemple de Nantes qui n'aura pas été déconfiné. Et tu peux pas les faire jouer en Alsace qui est à Strasbourg qui aura été déconfiné.
Non mais vous êtes extraordinaire quand même.
Tu fais déplacer une délégation, tiens, il y a un autre truc auquel on n'avait pas parlé d'ailleurs.
Mais attention, on va se perdre les gars.
Et comment tu fais avec les arbitres?
Bah ouais, mais c'est
comment tu fais avec les arbitres? Ils viennent de quelle région les arbitres? D'une troisième région.
Mais enfin, mais attendez, mais vous sortez là.
Donc là en fait, si on vous écoute, il faut arrêter tout parce que là, on redémarre au mois de janvier 2022.
Si vous sortez comme moi, vous avez constaté que sur le périphérique ou même dans les rues, il y a des dizaines et des dizaines de voitures et de gens qui se baladent.
Mais c'est pas une raison.
Mais c'est pas une raison.
Comment ça, c'est pas une raison?
Ton argument repose sur quelque chose que les gens n'ont pas le droit de faire.
Mais non, ah non, c'est pas vrai. Alors, ton argument, c'est même puisque les gens circulent sur le périphérique, nous on peut aller jouer dans ta Strasbourg.
Puisque les gens font du footing, les joueurs de foot ont le droit de s'entraîner.
Mais c'est pas vrai, puisque c'est totalement autorisé. Vous dites n'importe quoi. Vous avez l'autorisation, avec une attestation dérogatoire de déplacement, de faire une heure de déplacement, de bouger, d'accord ? Donc tout le monde, enfin tout le monde, pas tout le monde,
mais certaines
de nombreuses personnes prennent leur voiture,
une heure de déplacement.
Certains vont travailler, et là, on est en avril, en plein confinement.
Ah, mais ça, c'est autre chose.
En juillet, quand le confinement sera fini,
on ne sait pas.
On le souhaite.
On ne sait pas, mais on ne sait pas.
De toute façon, s'il n'est pas fini, le confinement, il n'y a pas de match.
Bon, les amis, vous ne répondez pas à ma question.
Si au 4 avril, tu as le droit de te déplacer avec ta voiture pour aller travailler, en juillet, quand le confinement sera levé, bien sûr qu'une équipe de foot aura le droit de prendre son bus.
Toi qui affirme ce genre de choses sans savoir.
Mais t'en sais rien, excuse-moi. Tu n'en sais rien, mais c'est dingue ce que tu me racontes. Mais excuse-moi, écoute, la région la plus touchée, c'est... Bon, il y a Strasbourg, mais il y a le Hauts-de-France. Il y a Paris.
Oui.
Ils vont être confinés bien plus longtemps que Nantes et que Strasbourg et que
c'est
ces régions-là.
Parce qu'on a été touchés les premiers.
Mais comment tu vois, il y a beaucoup plus de cas, c'est compliqué. Comment tu m'expliques? Une équipe, c'est des délégués, c'est tout ça. C'est 30-40 personnes, tu vas les déplacer.
Mais le délégué n'a peut-être pas besoin de venir au match.
Alors
non,
qu'on interdit les citoyens de le faire.
Non, t'es pas sérieux là, Eric. Le délégué n'a pas besoin de venir au match.
Non, le délégué, je veux dire, non, mais l'attaché de presse.
Le médecin, le kiné, tu rigoles ou quoi? Et donc, tu vas dire aux Parisiens,
vous
restez à Paris.
Comme nous au début.
Le Parisien qui a du travail à Lille, c'est une heure de train. Tu vas dire, tu peux pas aller travailler parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore déconfiné.
Mais
l'équipe
alors.
De foot, elle peut y aller.
Non, mais de toute façon, ce débat n'a lieu
d'être
que si les gens auront repris un minimum d'activité. On part quand même de ce scénario
mais
à la
tu
base.
N'es pas médecin.
Non, mais de toute façon, ça sert à rien, les gars. Il y a trop d'hypothèses.
Il y a trop d'hypothèses.
En fait,
le replay de l'émission de samedi dernier.
Il y a trop d'hypothèses là. On va pas s'en sortir. On se met des nœuds. Le seul raisonnement que l'on puisse avoir, c'est si on a un déconfinement total en France. Bon, mais tu peux avoir la reprise des entraînements, tu peux avoir la reprise du championnat et le calendrier, on l'a fixé. Le calendrier, c'est un mois. Un mois de préparation et un mois pour terminer
c'est
la compétition le plus serré possible.
Mmh.
Le plus serré possible.
Et les amis, je précise, hein, parce qu'on parle football, mais il y a des choses actuellement évidemment beaucoup plus graves. Hein, mais on est là aussi pour se distraire, pour penser à ceux qui sont dans le confinement et qui ont envie d'entendre aussi parfois un peu autre chose que ce qui se passe dans l'actualité dramatique. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on on remet tout cela en perspective. Il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves. Il y a une heure et demie de détente, de foot, d'information, de débat, mais évidemment.
Mais monsieur, madame, tout le monde, et on ne va pas oublier non plus que c'est Pâques et que c'est tous les tournois des jeunes normalement.
Ouais.
Et tous ces
c'est encore autre chose.
Ouais, non, mais je veux dire, donc les amoureux du ballon, ils sont privés de foot, de tout, et donc cette bonne guerre qu'ils ont envie d'en discuter, et ils sont tous dans leur fauteuil en disant c'est quand que le foot reprenne. Nous, on en discute, mais bien sûr, on n'est pas médecin.
Oui, mais surtout vous n'avez pas répondu à ma question, moi. Est-ce que les clubs vont se retrouver en cessation de paiement à la fin de la saison?
C'est ça qui s'est échappé un peu du débat. Mais certains, oui.
Les baisses de salaire, comment tu tu vois ça là,
d'abord,
les
ce ne sont pas des baisses de salaire.
Des reports.
C'est des décalements en fait, de paiement. Parce que les clubs ont un problème de trésorerie, mais je n'ai pas vu de baisse de salaire effective. Ils vont
certains
être payés.
Clubs.
Peut-être.
Certains clubs, hein.
La Juve a renoncé à 4 mois de salaire.
Ouais. En France, je n'ai pas vu.
Non, pas en France.
Il y a des joueurs qui refusent en Espagne, en Belgique.
Donc non, c'est une situation spéciale. Après... chaque joueur est différent et tous les joueurs ne gagnent pas ce que gagne Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour un footballeur professionnel de faire des efforts financiers compte tenu des salaires. Et il y a aussi des joueurs en Ligue 1 qui ont des salaires ou qui sont en fin de carrière, qui n'ont pas des gros salaires et qui en ont besoin.
Donc, Michel, pas de gros salaires, c'est difficile à entendre pour le Kidam. Le salaire médian.
Mais si toi, tu es dans ton raisonnement, tu penses qu'à Messi et à Ronaldo, championnat de France.
Le salaire médian, c'est 35 000 euros.
Le salaire médian, c'est 35 000 euros.
Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont en dessous.
Oui, d'accord.
Mais c'est important de le dire. Tu prends du salaire médian, je te parle de ces salaires-là. Des salaires-là, et sur des mecs qui sont en fin de carrière, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être un an, il leur reste deux ans, et c'est important pour eux, parce qu'après, il n'y a plus rien, c'est la reconversion, et ça peut mal se passer, la reconversion. Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a des cas qui sont différents. C'est très facile pour les joueurs les plus connus, qui gagnent des sommes astronomiques, et qui peuvent faire beaucoup d'efforts, et qui peuvent aider leur club.
Alors, je vais être très démago, mais tu m'enlèveras pas de l'idée que même un joueur
joueurs qui gagnent 20 000 euros par mois, peut-être même 15 000 euros par mois, sur 2-3 mois, il ne peut pas accepter une baisse de salaire.
Mais
il peut pas
tu
ne
connais
vivre.
Pas sa situation, mais tu ne sais pas, tu connais pas la situation. Tu sais qu'il y a plein de footballeurs qui flambent énormément. Et
ah,
qui
ça, sont... ah bah c'est leur problème,
ouais,
ça, Michel.
D'accord, c'est leur problème. Mais si c'est leur problème du moment, tu comprends bien que les gars, ils vont te dire ben non, moi, je ne peux pas.
Et, ouais,
je peux
et pas, le mec qui a son restaurant pas. Qui est fermé depuis 6 semaines, oui, et qui a zéro chiffre d'affaires, c'est son problème.
Malgré tout,
il n'a pas le choix.
Tu as des footballeurs blindés, des footballeurs qui gagnent des sommes colossales, et tu as des footballeurs qui sont dans la difficulté parce qu'ils n'ont pas été bons dans la gestion. Et bien, ceux-là,
ils auront quand même 4
SMIC et demi.
Avec le chômage.
Mais c'est un vrai débat, et surtout de savoir quelle est la bonne solution. Est-ce que c'est vraiment la baisse des salaires, ou savoir de demander aux joueurs qu'est-ce qu'ils peuvent faire de cet argent. C'est le débat qui a été posé en Angleterre récemment, où il y a le secrétaire à la santé, Matt Hancock, qui a demandé publiquement aux joueurs de la Première Ligue de baisser leur salaire de 30%. C'est du jamais vu, personne n'a fait en France, je crois pas.
De baisser, pas de décaler. Hein.
Voilà, c'est pas de décaler.
Non, la question la plus importante, c'est de savoir s'ils ont accepté.
Et non, déjà, ils ont été pris de court. Au même moment, les joueurs sont réunis à travers plusieurs capitaines anglais, dont Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool, pour essayer de, avec tous les capitaines des clubs anglais et donc tous les joueurs, qui à peu près 500 joueurs de Première Ligue, d'essayer de trouver une manière de redonner de l'argent. Parce qu'en baissant, par exemple, les salaires de 30% en Angleterre, qui auraient été les premiers visés, les premiers perdants dans l'histoire ? Par exemple, c'est les hôpitaux publics. Parce que tous ces salaires provoquent des impôts, et ces impôts vont notamment aux hôpitaux publics. Donc les hôpitaux publics ont dit que c'est une mauvaise solution, ne baissez pas les salaires, faites une donation directement aux hôpitaux, ça serait une meilleure solution. Et c'est ce que sont en train de faire les joueurs, de se réunir pour faire une donation de 40, 50, 60... millions de livres.
On refait le match sur les réseaux sociaux également, le compte Twitter @RTLFoot Baptiste Durieux.
Le message de Tristan, la particularité c'est qu'en Ligue 1 on a Neymar, où on a aussi Florent Balmont qui part en retraite et qui compte bien terminer sa cotisation cette année. Il faut faire du cas par cas, nous dit Tristan, et puis aussi beaucoup de messages sur les spéculations sur cette fin de saison. Message d'Antoine qui fera plaisir à Vicente. Une seule préparation pour terminer la saison et commencer la nouvelle, elle est là la solution. Ça fait du bien d'entendre Vicente, alias la voix de la raison, je cite, sur les sujets football du moment, même si je le trouve encore meilleur sur son compte Instagram apparemment ce matin. Grâce à Lisa, j'ai fait du yoga et clairement j'ai gagné en souplesse et en flexibilité.
On fait le match avec Vicente, Lisa Razou,
ils se sont libérés l'esprit, c'est
Powell,
bien
Powell, David Aiello, Eric Silvestro,
ils ont éliminé les frustrations.
Une pause dans ce On fait le match et la dernière ligne droite jusqu'à 20h, restez avec nous.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match jusqu'à 20h, 1h30 de détente, de plaisir, de discussion et de partage, bien évidemment, avec Stéphane Powells, David Aiello, Bruno Constant, Eric Silvestro et ce soir, Vicente Lizarazu avec vous tous, évidemment, qui nous écoutez. Je rappelle que dans les prochaines heures, cette émission sera podcastable, mais sur certaines séquences de discussion, on retombait à peu près sur les mêmes débats que le samedi dernier, avec notamment le voyage de Paris à Lille de Stéphane Powells. Hein. Les amis, on peut terminer cette séquence sur le football français et son économie. À propos des salaires, retenons la proposition du président Hérault, le président de l'Olympique de Marseille, qui lui veut effectivement revoir les salaires de ses joueurs à la baisse, ouais, et sans report de trésorerie.
C'est très drôle que ça vient de Marseille.
Alors, ça existe.
Oui, enfin, ça existe. On a payé des salaires exactement exponentiels, exagérés pour certains joueurs. Et donc, je pense que c'est forcément... Tout le monde va devoir revoir sa copie. Et donc, je vais jeter un pavé dans la mare, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mon cher Bruno. Mais avec, malheureusement ou heureusement, avec ce virus, les clubs vont devoir revoir leur copie. Ça veut dire que je pense que la grille des salaires... Je prends un exemple, il y a un joueur moyen. Moi, parce qu'il me fait hurler dans le football, ce n'est pas les Vicente, Lizarazu ou les Lionel Messi. Les grands joueurs gagnent très bien leur vie parce qu'ils sont pourris de talent. Moi, ce qui m'énerve dans le football, c'est des joueurs moyens. Il y a de ça 10 ans, gagner 10 000 euros. Ce même joueur moyen, maintenant, en gagne 50. Et c'est ça, parce qu'il y a l'offre et la demande.
Mais
et
mais
c'est
pourquoi, ça. Mais pourquoi attends, il gagne beaucoup d'argent,
fini.
Parce qu'il y a plus d'argent.
J'ai pas fini. Non. Eh va dire ça au président de Guingamp.
Mais si, mais il y a plus d'argent dans le football. Donc
David,
c'est
David, j'ai pas fini. Après, je me tais. Je pense que les clubs vont devoir arrêter parfois, et aussi parce qu'il y a certains agents qui poussent pour ça, de donner des salaires trop gros à des joueurs très moyens. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Et donc, il y a un moment, il y a peut-être plus de pognon. Mais si les clubs veulent pas être dans le rouge et pas déposer de bilan, il va falloir diminuer la masse salariale. Payons les bons joueurs à un bon prix, mais les moyens, donnons-leur des salaires moyens.
Non, je disais juste que si des joueurs touchent plus, c'est parce qu'il y a plus d'argent. Il y a plus d'argent dans le football. Il ne faut pas à chaque fois pointer les joueurs en disant
mais
les joueurs
ça, gagnent trop d'argent. Club, hein. Tout le monde n'est pas
c'est
Paris.
Pareil, mais je ne parle pas de Paris ou de Marseille. Je te dis juste qu'il y a plus les droits télé ont augmenté, c'est tout. Donc mais, logiquement,
attends.
Les joueurs.
Excuse-moi, j'étais dirigeant dans des clubs. Quand tu es dans un petit club et qui lutte pour ne pas descendre, je prends Nîmes et ces clubs-là en Ligue 2 ou des clubs de Ligue 2 qui essayent de monter. payer 50 000 euros. Moi, j'ai vu, je n'ai pas cité de nom des joueurs extrêmement moyens qui avaient fait 4 bons matchs en Belgique et qui avaient fait 3 bonnes passes. C'est surréaliste. Et les clubs sont dans le rouge à cause de ça.
Alors,
il va falloir revoir la grille
des salaires. Je pose la question différemment. Ça aurait pu être d'ailleurs l'objet d'un débat. Je la pose à vous tous et à Bichente Lizarazu. Bichente, est-ce que les clubs, le football français, vit parfois au-dessus de ses moyens?
Oui, il vit au-dessus de ses moyens. Moi, je pense que le Covid-10 ça va avoir bon dos. C'est-à-dire qu'il y a toujours en matière de gestion les cigales et les fourmis. Et dans les clubs français ou les clubs européens, il y a des gens qui gèrent bien et d'autres qui gèrent mal. Moi, ce qui m'étonne toujours, en fait, c'est qu'il y a une gestion qui soit hyper serrée. C'est-à-dire que tu t'asphyxies très, très vite en réalité. C'est-à-dire que moi... Je ne sais pas, un club comme Lyon, par exemple, a constitué un patrimoine, un stade, un centre d'entraînement, qui fait que bah, s'il y a une situation un petit peu d'urgence, ils peuvent, je sais pas, revendre une partie de ce truc-là et puis avoir de la trésorerie. Et tu as des clubs qui n'ont absolument rien, et qui vont dans une surenchère des salaires et qui ne mettent jamais rien de côté pour les périodes qui sont compliquées. Alors là, c'est une période particulière, c'est inédit, évidemment, mais ça peut être... je sais pas, une saison difficile où il faut absolument énormément recruter. Et moi, je suis très étonné, en fait, que... il n'y ait pas un cadrage un petit peu de ça, c'est-à-dire on dise à ces joueurs-là, vous êtes obligés de constituer en quelque sorte une tirelire pour les périodes difficiles ou de constituer un patrimoine pour justement utiliser ce patrimoine dans les moments plus difficiles.
Bah, c'est la DNCG un peu, ça, Bichente, finalement.
Ouais, mais alors justement, moi je serais plus strict finalement pour obliger les clubs à faire ça. Et en réalité, tu t'aperçois que les clubs ils sont dans la surenchère des salaires. Et puis aujourd'hui, bah, tu t'aperçois qu'un club comme Marseille, ils sont en grande difficulté. Parce qu'ils ont filé des salaires qui sont trop importants par rapport à la moyenne.
Justement, pour réagir à ça, il va falloir un moment mettre des grilles et demander aux agents aussi et aux clubs de ne pas tomber dans ce panneau-là.
Non, mais
Bruno Constant. La méthode, je ne sais pas quelle est la méthode, mais la réalité, elle est là.
Bruno Constant, la bulle anglaise, justement, est-ce qu'elle peut, elle peut nous péter à la figure?
Ben c'est compliqué à dire maintenant. Les clubs anglais, malgré tout, sont des clubs qui ont beaucoup d'argent. Ils vont être touchés, certes, si la saison ne va pas au bout, parce qu'il y a la menace, on revient au droit TD toujours, hein, si la saison ne va pas au bout, c'est 750 millions de livres qui devront être remboursés par les clubs. C'est évidemment énorme. Mais je pense que, comme le disait Bichente, je pense que le Covid peut faire le tri entre les bons gestionnaires et les mauvais gestionnaires. Les mauvais gestionnaires vont être clairement en crise. C'est ceux, généralement, qui, les premiers, demandent des efforts des joueurs, De baisser leur salaire, etc. Et des bons clubs qui ont beaucoup d'argent, un club comme Manchester United a beaucoup d'argent, il devrait passer cette crise à peu près dans les bonnes conditions. Un club comme Chelsea, par exemple, a des reins solides. Il faut rappeler que Chelsea, par exemple, on parlait du mercato, Chelsea n'a pas recruté la saison dernière. Ils avaient été interdits de recrutement l'été dernier, ils n'ont pas recruté cet hiver. Et bien, ça les a forcés à mieux travailler, à anticiper, à faire place à leur académie, à la formation, à faire jouer des jeunes de 19 ans, de 20 ans, de 21 ans. Et on s'est aperçu que c'était possible et que ça pouvait marcher, que Chelsea est quatrième du championnat et que ça va très bien. Et je pense que le Covid, moi, va pousser, en tout cas j'espère, les clubs et les entraîneurs déjà à donner davantage de temps aux entraîneurs pour travailler et aux clubs à mieux travailler. Et arrêter d'aller dans la surenchère, et là je suis d'accord avec toi, de joueurs moyens qui sont surpayés. Et ça, l'Angleterre, c'est le plus bel exemple. Il y a des joueurs moyens qui sont achetés 40, 50, 60 millions de livres.
C'est un raisonnement très vertueux, Bruno, mais tu vois, il ne nécessite aucune réaction.
Ah ben non, je suis
d'accord avec toi. Alors, deux réactions.
Non, t'achètes pour mettre 10 millions d'euros.
Stéphane, Eric Silvestro.
En vous écoutant, deux réflexions. La première, tout simplement, puisque les clubs n'auront pas de trésorerie, seront en grande difficulté, bah, il suffit d'interdire le mercato, comme ça en plus il n'y a pas de problème de date cet été. Seuls les joueurs en fin de contrat ont le droit de changer de club. Tous les autres qui ont un contrat...
Mais peut-être qu'ils n'auront pas le choix de toute façon.
Voilà, tous les autres qui ont un contrat et les clubs comme ça, ça évite des mouvements d'argent, des mouvements de l'argent gaspillé pour même.
J'ai pourtant quelques pistes à vous donner.
Sur le mercato. Deuxième chose, je te rejoins sur les dirigeants mauvais gestionnaires. Le seul qu'on a entendu dire une absurdité, une de plus, c'est Jacques-Henri Hérault.
Le plus mauvais placé.
Ouais. Qui est quand même le dirigeant qui a sorti des absurdités tout au long de la saison sportive et qui maintenant, même en gestion, parce qu'on pouvait le targuer de ne pas connaître le foot, mais d'être au moins un gestionnaire qui a géré des grandes entreprises.
Et dont la gestion catastrophique pousse le club.
Et donc là, non seulement il demande aux joueurs de baisser leur salaire, ce que font quasiment tous les clubs, et
on peut le comprendre dans cette période difficile. Mais lui, il va beaucoup plus loin. Il a peur de rien, ce garçon. C'est-à-dire qu'il demande aux joueurs que leur nouveau salaire pendant la période d'épidémie, c'est même pas un report, il demande déjà une annulation de ses salaires, en tout cas de la baisse sur les quelques mois. Et le pire, c'est qu'il demande qu'ensuite, une fois que l'épidémie est terminée, ce salaire qui a été désigné pendant l'épidémie reste le salaire pour la suite et la fin de leur contrat.
C'est pour ça que moi je te dis que le Covid dit ça bande d'eau.
À savoir qu'un joueur qui gagne 500 000 euros, on va lui dire bah, pendant le Covid, tu n'en toucheras que 250 ou 300. Et à la fin du Covid, bah, ton contrat, désormais, ce sera 250 au lieu de 500. Mais c'est extraordinaire. Mais comment peut-on dire, quand on est dirigeant d'un club de foot professionnel, comment peut-on dire un truc pareil? Mais comment on peut dire un truc pareil?
Bichente.
C'est pour ça que je te dis que le Covid a bande d'eau. Que tout le monde va se servir de cet argument, mais qu'au final, il y a ceux qui gèrent mal et qui vont être en grande difficulté, et ceux qui gèrent bien qui vont être capables d'amortir. C'est pour ça que je te dis qu'il faudrait revenir à une gestion un peu plus saine et que les clubs soient en capacité d'amortir toutes les situations. Celle-ci est extrême, bien entendu, elle est inédite, mais malgré tout, il y a d'autres situations où tu peux être en difficulté, il faut être capable de les amortir. Sinon, ça veut dire que tu prends trop de risques. Et la plupart des clubs prennent trop de risques.
Oui, mais certainement, après, il va falloir bichetter, encadrer. Il va falloir encadrer, certainement, parce que si on compte sur une espèce de régulation naturelle, en se disant...
Je sais, mais ça fait des années qu'on en parle.
Le Covid ne va pas tout régler tout seul, et les mots vont revenir. Donc, il faut un cadre.
Mais moi, je pense qu'on oublie toujours quelque chose, c'est que on se laisse, en fait, le football, c'est la passion. Et même les supporters, ils poussent à ça. Ils poussent, il faut acheter un nouveau joueur, un nouvel attaquant, il faut acheter un nouveau meneur de jeu. Enfin, ils te poussent à ça. Et du coup, les dirigeants, ils s'enflamment, ils vont finalement plus loin que leur logique, plus loin que leur raison. Mais oui, mais c'est le foot qui te pousse à ça. C'est pour ça que ça rend fou tout le monde. Et sauf qu'il ne faut jamais oublier un truc, c'est qu'il faut penser aux 200, 300, 400, 500 familles qui vivent du club, là. Tu vois, tu fais vivre 400, 500 familles. Il faut penser à eux, c'est-à-dire qu'il faut avoir un raisonnement toujours, ok, le foot, les matchs, le super attaquant et tout ça, mais j'ai 500 familles et je dois faire en sorte qu'il y ait une pérennité dans le club pour que ces 500 familles, eh ben, je les fasse vivre et qu'il n'y ait pas de problème.
Et d'ailleurs, il y a plein de petits clubs, de grands clubs qui ont garanti les salaires des salariés du club, je crois, Liverpool notamment, hein, par exemple.
Qui ont fait volte-face, hein, parce qu'au départ, ils voulaient mettre les gens.
Mais en tout cas,
partielle.
Pour ces salaires-là, on va dire des employés lambda du club, eh ben, c'est bien qu'eux n'aient pas d'efforts particuliers à faire, contrairement aux
employés. Après, pour être positif, il y a aussi des clubs qui vont être récompensés. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des clubs, quelques-uns en tout cas, qui sont peut-être pas tombés, comme dit Michel, dans le panneau de devoir faire un joueur de trop ou un salaire trop cher, de pouvoir dire non. C'est ça le gros problème dans le milieu. J'avais une belle page aujourd'hui dans l'équipe les directeurs sportifs. Ces mecs ont un rôle important de pouvoir dire à un moment, Jean-Luc Buzyn dit ce matin, il va falloir être des brocanteurs. Il va pouvoir faire des coups dans le football comme on faisait avant.
Après, déjà, il y avait des aménagements, tu sais, sur les salaires. Tu avais des salaires fixes et puis tu avais aussi des primes à l'objectif. Tu vois, qui faisait que si tu remplissais pas l'objectif, si tu n'étais pas, par exemple, dans les 5 premiers, ben, le joueur, il percevait que 70% de son salaire, tu vois, par exemple. Ça, ce sont des choses qui sont liées aussi à la performance, tu vois. Enfin, il y a plein d'aménagements possibles.
Vous savez ce que je pense, et ce n'est que mon modeste avis, ça va être un formidable accélérateur pour une ligue fermée. Pour protéger les grands clubs.
C'est le risque.
Avec zéro descente, des budgets énormes mais maîtrisés, et il y aura le tiers-monde du football derrière qui tirera.
Bien malheureusement.
Et je pense que ce sera une formidable opportunité.
Vous êtes optimiste?
Merci pour cette conclusion optimiste.
Merci pour l'optimisme.
Vous savez ce qu'on va faire?
Ça s'appelle la mondialisation.
Je vais vous faire rêver. Je vais vous faire rêver dans un instant. Dans un instant. Après la publicité.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match depuis 18h30. Il nous reste un quart d'heure pour évoquer trois autres sujets en compagnie d'Eric Silvestro, Bruno Constant, Stéphane Powels, David Aiello, Bichente Lizarazu et Baptiste Durieux pour tous vos messages sur les réseaux sociaux.
Évidemment, ça réagit beaucoup par rapport au sujet précédent. Alexis qui reprend un petit peu les propos de Stéphane qui nous dit si cette crise peut permettre de repenser les grilles de salaire parce que les joueurs à 250 000 euros par mois qui jouent deux matchs tous les six mois et qui sont encore irréguliers sur les contrôles pass, ça ne devrait plus exister. Strootman arrive, attention, message de Louis, supporter de l'Olympique de Marseille, supporter très critique, qui nous dit déjà hors virus, Marseille est plus endetté que la dette elle-même, c'est le crash de 1929 tous les jours à l'OM, donner le salaire de Ronaldo à Kevin Strootman justement c'est pas très intelligent, en termes de finances Jacques Henry ferait mieux d'écouter plutôt que de suggérer.
Messieurs, trois sujets en 15 minutes, d'abord le mercato, puis Benzema Giroud pourquoi tant d'aigreur, et le foot amateur également, n'oublions pas le football amateur, et je pense qu'on aura trouvé un bon avocat en la personne de Stéphane Pauwels pour nous en parler dans un instant. Vous voulez rêver, les amis ? Alors, comme le pêcheur à la ligne, je vais lancer un peu d'appât et vous, on va voir si vous mordez.
Ça, ça
à, on va voir si vous mordez à l'hameçon. Le mercato chaud.
D'abord, là, hein.
Le mercato chaud, c'est H-A-U-D ou chaud, S-H-O-W. Mm-hmm. La crise peut profiter à certains clubs. Hein. Alors, je me base sur des informations. Enfin, sur des informations. Non, sur des ou indiscrétions ou des petites phrases tout de même de personnalités du football qui ont alimenté cette semaine. Le mercato à venir, crise du coronavirus ou pas. Hein. Tout d'abord, Messi, Lionel Messi, à l'Inter Milan.
Non, non. Rien.
Non. Rumeur, impossible, injouable.
Rumeur, comme tous les ans, on entend parler que Messi ira à City, que Messi ira à l'Inter ou à un autre club. Non, non, Messi reste à Barcelone.
Il y a un gros nettoyage à Barcelone.
Alors, période de renégociation.
À Barcelone, le président changera, mais Messi restera.
Oui,
c'est
le président changera, le staff technique risque de changer également. Alors, il faut rappeler que Bartomeu, le président de Barcelone, a viré quatre dirigeants, là, c'est la crise. Mmh.
C'est quand les élections ? C'est dans pas longtemps.
Il peut y avoir des élections. Ah,
c'est pour ça que ça déjà, ça.
Les élections peuvent être anticipées si les sociaux se prennent la majorité pour décider d'anticiper ces élections. Il y a un certain monsieur Fonte à Barcelone qui veut venir à la tête du club avec Puyol et avec
Xavi.
Eric, il est encore là ? Non, mais c'est injouable pour l'Inter de toute façon.
Je voudrais quand même vous dire que Massimo,
c'est
quand même
Messi, c'est un tiers du budget.
Non, mais vous croyez honnêtement 5 minutes que Messi a une quelconque intention d'aller à l'Inter ? Qu'est-ce qui va se passer ? L'ange Messi, l'auréole Messi, le dieu Messi, le gentil Messi va profiter de tout ça pour signer une prolongation avec augmentation de salaire encore plus que ce qu'il a déjà. Et c'est comme ça à chaque fois. Rooney a fait le coup, Ronaldo a fait le coup, Messi a fait le coup. Ils font le coup à chaque fois.
Ronaldo est parti à la Juve, Ronaldo.
Sauf que là, il peut y avoir peut-être également la dimension politique avec peut-être l'envie de Messi d'avoir la peau du président. Justement, on sait qu'entre les deux, ça va
pas. Donc vous ne mordez pas l'hameçon ?
Jamais.
Vous ne mordez
pas l'hameçon ? Jamais.
Je dois quand même vous rappeler que la petite phrase vient de Massimo Moratti, qui est quand même une personnalité.
Qui n'est même plus dirigeant du club.
On est d'accord, mais qui est une personnalité qui a toujours été une personnalité extrêmement sérieuse. Non, mais on sait tes acquaintances turinoises, mais là, on parle de l'Inter.
Non, mais là, il faut être sérieux. Bon, Messi à l'Inter.
D'accord, ne mordez pas. Bichente ?
Non, je dis juste en aparté un club aussi emblématique que Barça, parce qu'on parle beaucoup des institutions et tout ça, qui est ultra déstabilisant en ce moment. C'est le grand n'importe quoi.
Ça
part en sucette totalement et ils ont perdu toutes les vertus de.
Mais parce qu'ils ont aussi géré ça,
c'est la force de ce club-là avec la culture catalane et tout ça.
Donc, si t'es Messi, tu pars pas.
Donc Neymar à Barcelone, c'est pas possible non plus.
Si, ça c'est possible.
Financièrement,
Neymar à Barcelone, c'est possible.
Certains joueurs de Barcelone l'ont encore dit cette semaine.
Moi, je veux bien mettre une petite pièce sur ça.
Neymar à Barcelone. Mais il va falloir vendre des joueurs.
Je veux bien mettre une petite
pièce. Il va falloir vendre des joueurs.
Messi à Milan.
Oui, mais ils n'ont pas tant de joueurs que ça sous contrat. Ils en ont à peu près 25. Donc, tu n'as pas tant de joueurs que ça.
En tout cas, c'est beaucoup plus crédible que Messi à l'Inter, je pense.
Les clubs qui sont costauds financièrement, qui ont de la trésorerie, vont pouvoir faire de bonnes affaires. Parce qu'il va y avoir plein de clubs qui vont avoir de grosses difficultés financières.
C'est
qu'on
arrive à obligés de vendre.
C'est ce que me disait un agent anglais qui m'explique. Je lui demandais est-ce que le mercato va être impacté ? Est-ce qu'il va y avoir moins de transferts que d'habitude ? Il disait que le mercato va être ugly, sale. Mais. C'est une certitude.
Ce qui veut dire.
Sale, c'est-à-dire qu'ils vont faire des achats.
Voire sordide.
Ouais, ils vont profiter de situations
la question,
de clubs en
difficulté.
C'est
pas de savoir si ça va être sordide, c'est à quel point ça va être sordide. Parce que comme le disait Bichente, c'est exactement ça. Les petits clubs qui ont le couteau sous la gorge vont être obligés de vendre des joueurs pour ne pas déposer le bilan. Et tu as des clubs très importants comme Manchester United, je répète, et comme Chelsea qui n'a pas recruté depuis un an, qui eux ont les reins solides, qui vont pouvoir taper très fort sur le marché des transferts. Donc
c'est là où on va voir aujourd'hui.
Et un club comme Barcelone a le couteau sous la gorge.
Et c'est là où on va voir aussi.
Ils n'ont pas de joueurs à vendre.
C'est là où on va voir aussi ce que les clubs sont bien entourés en termes de recruteurs et de directeurs sportifs et de pouvoir faire des coups. Et faire des coups, ça veut dire qu'il y a un travail en amont. Je prends l'exemple de Lille. Oui. Hein, quand tu vas chercher Victor Osimhen, c'est que tu le suis depuis un an et demi. Et bien là, ces mecs-là qui auront bien travaillé, ils vont faire des coups. Ils vont acheter des super joueurs pas chers. Ceux qui n'auront pas travaillé, ils vont prendre le mur.
Un autre coup, Mbappé. On est certain qu'il restera au Paris Saint-Germain.
Oui,
ça bougera pas.
Ça bougera pas.
Bah, et qui va l'acheter maintenant, ça
aucune chance.
Cher.
Le Real Madrid.
Ils peuvent pas tout acheter.
Mais il faudrait que Paris soit vendeur.
Je peux te dire que le Real Madrid a une sacrée trésorerie. Hein.
Oui, mais non, alors non, ils peuvent l'acheter.
Le PSG est renforcé par ce qui se passe aujourd'hui. Ils vont garder leurs deux stars, c'est évident.
Et pourquoi Neymar, c'est faisable à Barcelone? Parce que Paris, Mbappé, c'est le joueur du futur, on le dit depuis un moment. Et donc, s'ils en sacrifient un des deux pour des raisons financières, ils sacrifieront sans doute Neymar.
Mais Barcelone n'a pas l'argent.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ouvriront beaucoup plus facilement la porte à Neymar, qui aujourd'hui, à 2 ans de la fin de son contrat, ne vaut plus que, entre guillemets, 150 ou 180 millions, ce qui est énorme, évidemment, alors que Mbappé en vaut 300.
Et que Mbappé, son image
est beaucoup moins régulier que Mbappé aussi.
En plus, donc,
beaucoup moins blessé aussi.
Le choix est vite fait.
Et moins fantasque.
Je jette encore un peu d'appât, on va voir si vous mordez à l'hameçon. Paul Pogba va-t-il quitter Manchester ?
Très compliqué. C'est un cas extrêmement épineux. Avant le Covid, il était à peu près certain que Pogba allait partir, mais déjà, il allait partir au rabais. C'est-à-dire qu'il lui reste un an de contrat et il y a la possibilité de peut-être une deuxième année que le club peut lever. Mais depuis un an, il y avait aucune offre sur la table pour Mino Raiola. La Juve, tout est bidon. Lui ne voudrait pas revenir à la Juve et la Juve n'a pas les moyens financiers.
Ou si ça se fait, ça sera un prix dérisoire.
Et Manu a besoin d'argent.
La Juve n'a pas les moyens financiers de recruter Pogba. Et le Real n'a fait absolument aucune offre. À tel point qu'il y avait des tensions entre Mino Raiola et le joueur. En disant, il n'y a aucune offre qui arrive sur la table.
Est-ce qu'ils ont besoin d'argent, Manchester United, ou bien ils peuvent attendre?
Eux, ils ont les reins pour attendre.
Ils ont les reins.
Maintenant, ils veulent s'en débarrasser parce qu'ils ont acheté déjà un joueur.
Pogba, tu prends un vrai risque. C'est-à-dire que, évidemment, le potentiel, on le connaît tous.
Tu le gardes,
mais toi, t'es un club aujourd'hui. Est-ce que tu mets 100 millions pour prendre Pogba?
Si je peux l'avoir à 50,
quand tu dis tu prends un risque sur Pogba,
parce que super joueur, je prends 10 fois.
Parce que moi, je trouve qu'à 100 millions, avec Pogba, tu prends un risque. Moi, j'en prends un autre.
Et qui sort d'une saison blanche aussi.
Alors, moi, pour le Real, j'ai une autre proposition à vous faire si vous voulez pas trop le Pogba.
Moi, je crois pas. Pardon, juste pour terminer sur Pogba, tu prends un risque, non? Je pense que c'est un joueur de grand talent. Il faut juste qu'il soit, qu'il retrouve la confiance, qu'il soit bien accompagné, qu'il soit avec un coach avec qui le message passe bien, et puis il va rejouer à son meilleur niveau.
De façon beaucoup plus cynique aujourd'hui, d'un point de vue marketing, avec Pogba, tu prends pas de risque.
Je le prends 10 fois, Pogba, 10 fois, je le prends.
À quel prix?
Mais même si c'est cher, je le prends.
Mais à quel prix?
Parce que d'abord, c'est un super joueur.
D'accord. Mais quel prix tu mets?
Tu m'as parlé d'un spécialiste de l'Angleterre.
Bruno, écoute combien Pogba?
Quel prix tu mets pour Pogba?
Sa cote aujourd'hui, elle serait descendue à 65 millions de livres.
C'est pas cher.
Donc,
c'est
70 millions d'euros.
Bon, il y en a un qui
sera moins cher. Mais Bruno, j'ai une question à te poser. Avec Mourinho, bon, moi, je comprends pourquoi avec Mourinho, ça, c'était compliqué. Parce qu'avec Mourinho, c'est toujours compliqué ou très souvent compliqué. Mais pourquoi est-ce qu'il ne réussit pas à Manchester United, Pogba? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est lui le problème? Est-ce qu'il n'arrive pas à se...
C'est d'abord les blessures.
C'est un ensemble de choses, évidemment. On ne peut pas le résumer à un seul problème. Le premier responsable, pour moi, c'est lui. C'est lui qui n'a pas été capable d'être régulier sur le terrain. Et je pense que, très honnêtement, Mino Raiola ne fait pas du bien à Pogba. Voilà. Son retour à Manchester, c'était une erreur déjà. Et que depuis un an, s'il ne joue pas... Il n'est pas sur le terrain à Manchester, c'est parce que Mino Raiola veut le vendre à tout prix et que ça crée des tensions.
19h52, c'est on fait le match Camavinga au Real Madrid. Notez-le.
Mais ça, c'est une excellente idée.
Si Rennes veut frapper un grand coup, ils peuvent très bien banquer là-dessus. On le vend à un prix très cher. Et on recrute en Ligue 1 et on profite de la difficulté des autres pour se renforcer et grimper.
Sauf que le mercato sale intervient à ce moment-là. C'est-à-dire que Rennes, même si c'est un club bien géré, même si c'est un club milliardaire, tu ne pourras pas le vendre le prix que tu avais prévu de le vendre au départ. Donc est-ce que tu fais rentrer de l'argent par sécurité? Et là, c'est le Real qui fait une bonne affaire. Encore que je rejoins Michel, il est beaucoup trop jeune.
Il doit grandir.
Tout le monde n'est pas Mbappé. Et attention, il faut juste. Il y a plusieurs profils de joueurs. On a Mbappé, qui est un phénomène, qui est précoce, qui s'est adapté à tout, qui s'est adapté de façon incroyable au Paris Saint-Germain, qui a pas eu de problème au Paris Saint-Germain, qui rentre en équipe de France comme un ovni et comme un avion. Et puis, tu as des joueurs qui ont plus de difficultés quand ils partent à l'étranger. Donc, c'est un peu tôt quand même.
Je connais pas
la maturité de Camavinga. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il a dans la tête. Je connais pas son entourage, mais c'est ça qui est important. Mais
aller
au Real Madrid, c'est le.
Et Thauvin à Marseille, il faut le lâcher, Bichente, il lui reste encore un an. Alors, le problème de Thomas, c'est que quand il flambait, il flambait, Marseille n'arrivait pas à le vendre. Et maintenant, il fait une saison quasiment blanche avec.
Marseille, ils vont être obligés de vendre à la casse, peut-être. Ils font partie de ces clubs-là,
mais
ils vont
obligés de vendre à la casse. Lui, en l'occurrence, il fait partie des perdants de ce Covid. C'est-à-dire que lui, il reprenait la compétition au moment où ça s'arrête à nouveau. Et il a toujours pas joué. Et dans quel état
tu peux faire un bon coup à Thauvin, tu peux l'acheter de Francis ou crève de faim.
Marseille, le seul joueur qui peut leur apporter un peu d'argent, même si c'est pas.
C'est lui.
Non, c'est Sanson. c'est Sanson, le seul qui a une cote un peu en Angleterre. Et eh ben, ce sera 25-30.
Ouais,
même si c'est peut-être beaucoup pour Sanson, mais c'est le seul qui a un vrai pouvoir.
Leur tourne, les amis, les réseaux sociaux, Baptiste.
Beaucoup, beaucoup de réactions. Celle de Simon sur Messi, Messi à l'Inter et Nicolas Palo au Real Madrid, c'est n'importe quoi. Messi restera à Barcelone et, comme chaque année, rajoutera 1-0 sur son salaire. Ouais, Florian qui nous dit à part le PSG, à part si le PSG accepte un prêt de sur 25 ans, Neymar n'ira jamais à Barcelone et Mbappé restera. Ils sont intransférables, point final. Sur Pogba aussi, Alexandre qui nous dit que Pogba parte à la Juve, au Real Madrid ou à Châteauroux, mais pourvu qu'il rejoue au football. Message d'Etienne aussi, laissez Camavinga avoir de la barbe, ensuite il partira. Puis un petit dernier sur Thauvin de Ronald. Thauvin va partir à Newcastle pour 5 millions d'euros, c'est écrit d'avance.
L'Angleterre, c'est fini. Il nous reste 5 minutes, il y avait encore deux sujets. Benzema, la F1, Giroud, le karting, pourquoi tant d'aigreur? Bichente Lizarazu, qu'est-ce que tu en penses de cette... Alors c'est du réchauffé un peu de...
Ouais, c'est un peu réchauffé. Bon écoute, sur la forme... Je sais pas, il a voulu faire, c'est un peu la culture de la punchline en ce moment, donc il a voulu faire ça et c'est du folklore pour moi. Après sur le fond, écoute, malgré sa carrière extraordinaire au Real Madrid, voilà, il exprime une frustration par rapport à l'équipe de France. Je pense qu'il faut pas être psy pour le comprendre. Mmh. Le seul problème, c'est que c'est Giroud qui en fait les frais. Il y a pas de raison qu'il en fasse les frais parce que lui, il y est pour rien.
Bah pourquoi, voilà. Pourquoi tant d'erreurs en vérité? Parce que Giroud a piqué la place de Benzema, c'est tout quoi.
Non, mais c'est même pas ça. C'est, ça c'est plus profond que ça. C'est plus profond. C'est sa frustration par rapport à l'équipe de France de pas pouvoir faire ce qui fait d'extraordinaire au Real Madrid, de pas pouvoir le faire en équipe de France. Ça sera toujours une frustration. Voilà. Après, écoute, Giroud, tu lui enlèverais pas ce qu'il a fait avec l'équipe de France. Tu lui enlèves pas le fait qu'il, lui aussi, en équipe de France, il aura fait une super carrière et qu'il est champion du monde. Mmh. Voilà. Mais c'est dommage. C'est lui qui fait les frais de tout ça.
Ce qui est dommage, Bichente, c'est que Benzema a répondu footballistiquement parlant sur le terrain à ses non-sélections et puis là il dérape
en club
bien sûr, mais après c'est sorti. Il faut arrêter de dire qu'il sait pas ce qu'il fait. Quand tu fais comme ça sur le web des interventions et que tu lâches une phrase comme ça, tu sais que derrière tu vas prendre, t'as l'impression, moi je dis que c'est gratuit et je suis déçu parce que c'est un joueur qui est magnifique à voir jouer et je pense que c'est pas nécessaire. Voilà, moi je pense
c'est
très con. Excusez-moi de
dire,
mais
je pense pas que ça empêche Giroud de dormir et c'est bien l'essentiel.
Non mais...
Il a pas l'air très ému de la déclaration.
Mais Bichette, il a raison, il a rien fait Giroud. Il joue et bah oui, il est champion du monde.
Mais il est pour rien.
Les amis, on va redescendre de quelques étages. Focus quand même sur le football amateur. Semaine très importante en France pour le football amateur. Il peut y avoir des décisions très importantes qui seront prises jeudi prochain au comité exécutif de la Fédération française de football pour annoncer que toutes les districts et matchs de ligue sont figés. Qu'on arrêterait éventuellement à l'issue des matchs aller, alors qu'il y a des clubs qui n'ont pas encore joué tous leurs matchs aller et que maintenant juridiquement il faut border l'affaire pour les clubs qui monteraient, qui descendraient, etc. Décision jeudi. Stéphane Powels.
Sur les parents pauvres, mais qu'est-ce qu'on peut raconter? C'est ce virus qui cette situation, elle est comme ça. On est tous bien tristes de ce qui se passe avec le football amateur. Je vais faire peut-être du populisme à deux balles, mais je le pense. Quand nos grands présidents du Paris Saint-Germain et qui sont là en train de parler de millions et de millions pour défendre les droits.
C'est autre chose.
Eh bien, j'aimerais bien que ces gens-là aussi, de temps en temps, ont une vraie réflexion pour le football amateur et qu'il y ait un vrai geste qui soit fait. Je pense qu'ils pourraient aussi demander de mettre, même si ces matchs ne sont pas en télé, d'aider le football amateur. Je pense que ces grands patrons pourraient à un moment demander un pourcentage aussi pour le football amateur. C'est le moment de tendre la main, c'est le moment de les sauver.
Bichente, comment se passe ton confinement? J'ai vu que tu jardinais beaucoup.
Oui, écoute, j'ai une passion très nouvelle pour le jardinage. J'ai coupé toutes les branches qui dépassaient. Pour le rangement aussi, j'ai tout rangé. Tout est propre et j'essaye de faire du
50 planches
de sport en salle.
T'imagines?
Voilà, mais c'est un peu long.
Un peu de sport quand même.
Ça doit être dur le surf en intérieur. Hein.
Ouais, c'est dur.
T'as une grande baignoire ou
confirme.
Pas
et le home trainer, au bout d'un moment, à vélo, c'est pénible.
Tu peux chanter un peu aussi, hein, mais faut que
oui,
tu
c'est
mettes,
vrai. Hein, je me suis remis à la guitare aussi, tiens.
Ah, bravo.
J'essaierai de vous jouer un petit morceau la prochaine fois.
Que de la gueule, Bichette Lizarazu.
Non, j'ai pas que de la gueule, tu sais.
Il adore les défis en plus. Faut pas défier Bichette.
Et le prochain, on refait le match, je vais jouer un petit morceau.
Christian, cas, c'était
si Christian, si Christian accepte, hein, qu'on casse l'antenne.
Mais pourquoi pas? Je le note. Mais ce sera peut-être Denis qui t'accueillera, Denis Balbuia.
Oh
Oh, quel lâche, Christian Olivier.
Ah non, j'étais avec toi, Christian, avec toi. Paris, c'est avec les hommes en présence.
Ça a été un plaisir, Vicente, de t'accueillir en tous les cas dans On fait le match ce soir. Tu es évidemment toujours le bienvenu sur l'antenne de RTL. À très bientôt, bon confinement, Vicente.
Ouais, merci, à bientôt.
Merci, ciao, merci les amis ici, merci David Aiello. Merci Stéphane Powels, merci David Aiello, merci Bruno Constant.
Merci Christian.
Merci Eric.
Merci à vous.
Eric, on retrouvera demain soir, 19h30, 20h.
Tout à fait.
On fait le sport avec le Parisien.
Oui, on sera avec Mathieu Bastaro, qui est confiné, lui, au 50e étage d'une tour à New York. Et ça doit être dur pour lui aussi.
Merci à Baptiste Durieux également.
Un plaisir, merci à tous.
Pour tous vos messages. Merci à vous tous qui nous écoutez, évidemment. Profitez de votre confinement. Restez à l'écoute de RTL. Après les informations de 20h, vous retrouverez Histoire de rire, Laurent Boyer, qui recevra Muriel Robin. Et puisqu'il est quasiment 20h, les amis, je pense qu'on peut applaudir le corps médical qui a tout notre soutien et tous nos encouragements. Merci, bonne soirée à l'écoute de RTL.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.